Gameblogueuse, gameblogueur, bien le bonjour, bienvenue dans le 185e podcast de l'histoire de Gameblog. Et c'est le 6e courrier des lecteurs. Et oui, effectivement, Julo, j'étais caché derrière.
Vous connaissez l'histoire des deux stés cachés qui se
battent à la fin. Ça part très très mal.
Voilà, c'est très très bien. Donc, courrier des lecteurs numéro 6, déjà, vous le savez, c'est vous qui faites le fil conducteur de ce podcast. On va passer une petite heure ensemble avec vos questions pour revenir sur l'actualité à quelques semaines de l'E3, une actualité bouillante. Et puis aussi, vous rappelez que ce soir, et oui, nous sommes le 18 mai, si vous écoutez en tout cas ce podcast, mercredi matin, ce serait mieux. À 18h30, eh bien, chat premium avec tous les membres premium, justement, pour répondre encore plus à vos questions. Comme ça, on va pouvoir prolonger le débat suite à ce podcast. Et puis, autre rendez-vous ce samedi, samedi 21 mai, à 16h, précise, tapante, eh bien, on vous donne rendez-vous à la FNAC des Halles, c'est à Paris que ça se passe, pour l'enregistrement d'un podcast en live. Auquel on ira justement aller chercher directement vos questions. En invité, nous aurons aussi Florent Gorge et Alexis Blanchet, donc deux personnalités absolument incroyables du jeu vidéo, cultivées, riches, etc., et accessibles.
Enfin, riches, ils sont pas si riches que ça.
Riches en connaissances, bien évidemment. Et du coup, vous pourrez nous poser toutes vos questions. Et ça...
Sauf à moi, parce que je serai pas là.
Eh ben, c'est bien dommage. Et donc, comme ça, eh bien, on pourra dialoguer ensemble, je rappelle, ce samedi 21 mai à 16h à la FNAC. Des Halles, voilà. Allez, on va commencer ce courrier des lecteurs numéro 6. Vous savez, à chaque fois, on le découpe en deux parties. Une partie, les questions dédiées aux jeux vidéo, et la seconde partie, dédiée aux questions qui tournent un petit peu plus autour de Gameblog. Mais on va commencer avec le jeu vidéo et la question de Dams77. Vous allez voir, on a une ou deux questions sur le PSN, et puis après, on va passer à plein d'autres choses. Mais forcément, le PSN, vous êtes posé plein de questions. Depuis quelques temps déjà, le PSN est out, alors depuis il est revenu, et les news traitant le sujet se font de plus en plus nombreuses. Pourquoi ne pas faire une seule et même news que vous pourriez mettre à jour régulièrement ? D'une part, ça permettrait à quelqu'un qui ne suit pas forcément le fil d'actualité de voir facilement l'avancement de la situation. D'une autre part, ce serait vraiment plus agréable pour les forumers de pouvoir débattre sur le sujet sur un seul et unique thread, ce qui éviterait de s'éparpiller.
Quand t'as dit quoi ?
Thread. Sur 5 ou 6 topics différents. En fait, c'est une question que j'aurais dû mettre dans Gameblog, mais bon, je me suis trompé. Bon, ben, voilà. Ça commence bien ce podcast.
On y répond quand même tout de suite.
Bah oui.
Allez. C'est une très bonne question, effectivement, qui est revenue beaucoup pendant cette crise parce qu'il y a eu pas mal de news sur le PSN. Il y a plusieurs raisons. À mon avis, déjà, pour commencer, vu l'intensité de cette actualité.
À ton avis, t'es pas sûr en fait.
Comment ça ? Si. Non,
il prévient, ce n'est que son avis.
D'accord.
Je en donnerai mon avis en chef. Juste après lui, je donnerai
mon avis. Ce n'est que mon avis de rédacteur en chef.
Bref, donc, il y a eu tellement de choses qui se sont passées au fur et à mesure, et surtout qu'en fait, au départ, il y avait énormément de zones d'ombre sur cette actualité. On aurait pu effectivement faire une seule news et puis éventuellement la mettre à jour au fur et à mesure. Le problème, c'est que d'une part, ça aurait fait une news de 30 km de long à l'arrivée. D'autre part,
assez indigeste. Hein,
voilà, indigeste et pas forcément bien structuré, bien clair, parce qu'il y a des choses qui changent au fur et à mesure du traitement d'une actualité comme celle-là. Et deux, l'autre problème aussi, c'est qu'elle aurait probablement échoué trop tard, en fait, sur l'année. Parce que quand il y a. Quand il y a un événement comme celui-ci, le but du jeu, c'est évidemment d'informer les gens le plus rapidement possible, surtout quand il y a des vols de données, quand il y a des rumeurs de piratage, de machin, de bidule, et donc de tenir à jour. Et puis c'est un problème qui est beaucoup plus large, c'est pas juste un réseau qui se fait pirater, c'est comment ça s'est fait pirater, quelles sont les conséquences, quand dit Sony, quand dit Intel, etc. Enfin, il y a plein d'angles différents sur une crise aussi majeure que celle que le PSN a connue, et donc c'est aussi intéressant de le séparer. Voilà. Après, effectivement, c'est pas forcément très pratique parce qu'il y a forcément des terrains communs de discussion
c'est
par rapport
pas
au même. Problème,
pour
mais...
la discussion et voilà. Ça effectivement on a bien entendu ce que vous avez dit et on réfléchit déjà à voir si peut-être à l'avenir si qu'il y a une actualité on va dire similaire dans la richesse du traitement et le nombre de news peut-être qu'on verra, on va voir avec Mr P si on peut unifier les forums, ce genre de choses par exemple.
Oui, peut-être, ça c'est peut-être effectivement envisageable de voir s'il y a plusieurs news qui traînent à plusieurs angles d'une même crise mais qui, où la discussion peut rester la même, de réunir les deux discussions.
Après c'est toujours toujours aussi, il faut bien voir, c'est impossible de faire plaisir à tout le monde, de contenter tout le monde.
Oui, puis il y a des gens qui n'aimeront pas ça.
Voilà, ça veut dire que chacune de ces news-là, globalement, on fait des centaines de commentaires. Donc ça veut dire que, et il y a eu effectivement une bonne dizaine de news, voire un petit peu plus, sur le PSN. Du coup, ça ferait des trucs avec plus de milliers de commentaires. Donc c'est sûr, bah, tout est au même endroit, mais alors à la fois, franchement, quand vous arrivez, genre je sais pas, un peu après la bataille, aux commentaires 800, vous n'allez pas vous amuser à tout relire. Donc c'est un peu dilué dans la masse, et donc c'est pas forcément beaucoup plus simple.
Ni beaucoup plus constructif d'ailleurs, non, en termes de discussion.
Et plus clair. Ça vous permettra aussi, potentiellement, on le pense aussi par rapport au moteur de recherche de Gameblog, si on veut retrouver une information, si avec un truc, bah boum, avec une page qui ferait mais 15 000 km, ce sera un peu indigeste. Julo.
Et puis de manière pratique, il ne faut pas oublier que on crée des tags hein, sur le côté droit en haut de la page de chaque news. Et en l'occurrence, quand vous cliquez sur le tag PlayStation Network, vous avez le fil de tout ce qui s'est passé. Donc quelque part, retrouver une information, se mettre à jour, etc., c'est assez facile. D'autant que dans l'écriture de chacune de nos news, on essaye de manière générale quand même de rappeler,
de resituer les choses, hein.
Voilà, de resituer les choses et de mettre des liens vers les anciennes news qui sont intéressantes par rapport au sujet qu'on traite.
Mais justement, voilà. Il y a des gens qui nous disent, bah oui, mais du coup, ça sert à rien parce que vous répétez des trucs qu'on a déjà lus. Mais aussi, n'oubliez pas que vous êtes peut-être ceux qui se plaignent de ça,
faut pas oublier, c'est
ultra informés. Il y a peut-être des gens aussi qui débarquent, qui sont moins informés que vous. Il faut pas oublier que nous n'informons pas que les méga hardcore gamers qui sont au courant à la minute près, etc. C'est une information pour tout le monde.
Voilà. Et surtout que le fil, enfin Gameblog c'est un site d'actualité, le fil d'actu c'est je sais pas 30 ou 40 news par jour. Mettre à jour une même news tout le temps, donc ça voudrait dire la republier tout le temps, à quel moment, etc. Enfin, c'est assez complexe en fait, ça servirait pas à grand chose.
Et pour ceux, parce qu'il y en a d'autres aussi qui ont posé la question, pourquoi autant de news sur le PSN? Bah, tout simplement parce que ça a eu une résonance vraiment mondiale et ça a intéressé énormément les gens. Regardez, alors à la date de ce podcast où maintenant le PSN est de retour, ça va être peut-être un peu plus loin présent, mais depuis 3 semaines
ouais,
maintenant,
sûr, en plus.
Sur le top 5, ce n'est donc les news les plus lues, les plus cliquées, les plus appréciées, les plus commentées, donc celles qui finalement vous intéressent le plus, ce n'est exclusivement que du PSN, du PlayStation Network. Donc,
oui, et puis comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de choses à prendre en compte sur un incident comme celui-là. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites et qui étaient fausses aussi, donc il a fallu contredire après, etc. Enfin, il y a une évolution, c'est un petit peu comme... vraiment comme un traitement de l'actualité quand il y a quelque chose de grave, je sais pas, genre pour prendre des trucs sérieux, genre la mort de Ben Laden, on en a entendu parler beaucoup et il y a eu plein de façons de le traiter, il y a eu des intervenants, nous aussi on a interrogé un spécialiste de cybercriminalité exprès pour avoir un éclairage professionnel sur cet incident et en savoir plus sur ce qu'il représente à l'échelle de tous les autres réseaux, etc. Donc il y avait beaucoup de choses à en faire et ça vous a visiblement extrêmement intéressé. Donc oui, effectivement, pendant une certaine période, il y a eu beaucoup de PSN, mais je suis même pas certain qu'il y ait eu plus de PSN que du reste. Ça m'étonnerait même beaucoup.
Ah non, mais ça c'est certain que non.
Donc faut pas non plus, voilà.
Et puis une seule news, ça voudrait dire que comment on peut savoir vraiment si elle a été mise à jour, s'il s'est passé quelque chose de nouveau, etc. On devrait mettre...
Si, une solution, mise à jour 1, mise à jour 2,
oui, 3, 4, ouais, mais bon, après quand tu sais plus trop où t'en es, enfin bon,
voilà, c'est pas possible.
On prend des décisions, on essaye de trouver le système qui est le plus clair et qui permet justement d'avoir une vision la plus globale des sujets qu'on traite, et surtout les plus réactives, c'est important pour nous.
T'es d'accord, Tiger?
Oui, tout à fait.
Très bien, merci beaucoup.
Le approval seal de Tiger.
Allez, on va repartir avec une nouvelle question, c'est la dernière qui concerne le PSN, et cette fois-ci elle est dans la bonne case, c'est-à-dire le jeu vidéo.
Okay.
C'est la question de Falae, mais qui est une question qui est aussi assez générique. Vous avez été nombreux à poser une question assez similaire. Quelle attitude adopter pour Sony lors de l'E3? Est-ce que le piratage du PSN pourra totalement ou en partie modifier le déroulement de la conférence initialement prévue? Est-ce que l'affaire du PSN risque de prolonger la durée de vie des consoles à support physique, DVD, Blu-ray, mémoire flash, des futures générations? En gros, et vous avez été nombreux, est-ce que ça ne fait pas un coup porté au dématérialisé?
Pour certaines personnes, indubitablement que si. Surtout quand on considère qu'effectivement aucun réseau n'est à l'abri de quoi que ce soit. Maintenant, vous pouvez aussi vous faire cambrioler chez vous. C'est pas pour vous faire peur que je vous dise ça, mais enfin bon. C'est-à-dire que si quelqu'un accepte d'avoir et qu'on paye un service, en l'occurrence, ce qui est le cas par exemple pour le Xbox Live, Microsoft a donc la responsabilité de l'hébergement de ces données, et donc moi quelque part, je veux dire, je fais pas ma justice moi-même, tu vois, il y a la police qui est là pour surveiller une nation, il y a des gens qui sont là pour ça, dans ce métier. Je préfère moi personnellement, en tout cas en termes de dématérialisation, confier certaines informations à quelqu'un que je vais pouvoir attaquer après si jamais il y a une merde et vers qui me tourner, plutôt que de tout faire tout seul. Mais bon,
obligé de t'attaquer après.
Non, mais attaquer c'est une chose, mais perdre par exemple, en l'occurrence là, ce que les gens craignent, c'est que si on était au tout dématérialisé, bon bah ça ferait quasiment un mois que tu pourrais plus jouer aux jeux vidéo. Peut-être que tu aurais perdu aussi tes jeux qu'il faudrait retélécharger, etc. Peut-être que la boîte serait morte ou ce genre de choses. C'est ces craintes là aussi qui ressurgissent.
Oui, mais elles sont complètement compréhensibles, effectivement. Il y a, dans tous les cas, c'est certain, cette crise là aura des conséquences très négatives pour l'image du dématérialisé auprès de certaines personnes, en tout cas c'est certain.
Voilà, mais après, est-ce que l'histoire aussi n'est pas en marche et le train de l'histoire ne va pas s'arrêter finalement à ce qui restera d'ici quelques années, on le souhaite, qu'un épiphénomène. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une rechute, si soudainement le Xbox Live, etc., ne sera pas attaqué, bidule.
Il y aura d'autres trucs plus gros, d'autres hacks, même pas forcément dans le jeu vidéo ou dans des services de VOD ou de je ne sais quoi, mais il y aura des épisodes de piratage parce que même si technologiquement un réseau peut être super bien sécurisé, admettons qu'on trouve un moyen de le sécuriser à fond, il y aura toujours derrière des gens qui doivent accéder à ce réseau, qui ont donc des accès à ce réseau et qui sont eux des humains, donc faillibles. Et voilà. Donc.
Moi qui aime bien les images, quand le début de l'aviation, il y a bien eu des premiers avions qui se sont écrasés.
Il y en a même eu un paquet. Ouais.
Bah ouais, et pour autant, non, mais même quand on va dire l'aviation commerciale a commencé et qu'il y a eu des premiers transports de gens nombreux, il y a eu malheureusement des incidents, voire des drames, ça n'a pas arrêté l'aviation. Quand les gens, quand une industrie, quand le monde choisit une voie, une nouvelle voie et qu'elle s'y engage, elle y met les moyens et c'est malheureusement ou heureusement pas des petits incidents de parcours qui bloquent et qui freinent les choses. Clairement, l'industrie est en train de se tourner vers le dématérialisé, pas forcément exclusivement le dématérialisé à échéance de quelques décennies, mais en tout cas une grande partie de dématérialisé, et même le jeu en ligne forcément qui prend un essor incroyable va pas soudainement s'arrêter, être remis en cause ou quoi que ce soit, ça c'est certain.
Après, moi je pense que ça peut être que du bien, moi, cette histoire, de toute façon, parce que ça va justement élever la conscience des sociétés qui négligent certains éléments de sécurité pour le confort de l'utilisateur ou pour gagner, économiser un peu d'argent. Et voilà, donc c'est à cause de ce genre de chute qu'on progresse.
C'est ce que semblait dire Christophe Balestra quand je l'ai rencontré la semaine dernière. On parlait un petit peu du PSN et justement, son avis était plutôt positif. Alors bien sûr, la crise les touche, ils n'en sont pas insensibles, voilà. Mais il était très confiant sur une restauration. La preuve, c'est arrivé quelques heures après finalement. Et surtout, comme tu le disais, faire prendre conscience à ces multinationales l'importance de sécuriser encore plus ces réseaux pour vraiment pouvoir franchir une étape supplémentaire et faire en sorte qu'on soit mieux servi, de manière plus sécure, etc. Et que ces réseaux-là et le dématérialisé puissent se développer sainement.
Ouais. Moi, je reviens sur la question de Falaé, en l'occurrence, qu'on est en train de s'éloigner un petit peu, sur l'attitude adoptée à Sony lors de l'E3. Et toi, tu avais une théorie là-dessus, Julien.
C'est qu'ils
disaient, oui.
je ne sais plus.
Tu pensais qu'ils allaient faire de l'humour avec ça.
Ah oui, ah bah oui, oui, oui. Ah oui, oui. Moi, je vois bien
comme le
Butler arriver, Butler ou les responsables de. Donc Butler, c'est celui qui fait les pubs très décalées aux États-Unis pour PlayStation, ou même commencer la conférence et qu'elle bug. Et que ça s'arrête et qu'il y a une espèce de blanc pendant 10 secondes et que ça reparte et machin et ah c'est bon on a... enfin, pour moi ils vont faire une blague, c'est obligé.
Bah moi je
tout
me pose
comme,
la question
tout comme Steve Jobs a fait de l'humour sur le modèle de l'iPhone 4, genre vous l'avez tous vu, bah non vous l'avez pas vu machin, mais c'est aujourd'hui en termes de communication, quand tu as la communication de crise lorsqu'elle a été aussi forte, il faut l'intégrer à ta communication. Tu peux pas, genre, à mon avis, pas jeter un voile pudique dessus, jamais parler des problèmes du PSN.
Ça, c'est sûr.
Et le meilleur moyen pour dédramatiser, c'est d'en faire de l'humour et de jouer même de toi-même.
Mais
quoi.
C'est tendu quand même, parce que là, en l'occurrence, c'est pas juste on n'a pas sorti ce qu'on avait dit qu'on allait sortir. On a sorti vos numéros de carte bancaire et votre identité.
Oui, mais
quoi.
Ils joueront pas là-dessus. Hein.
Moi, je pense qu'ils font pas d'humour.
Je sais pas.
Je pense qu'ils vont.
En tout cas, s'ils en font, ça va être très délicat.
Assez clair et rapide pour dire que tout est sécurisé, que tout va bien.
L'un peut aller avec l'autre.
Pour la gêne, quoi.
Voilà. L'un peut aller avec l'autre, à mon avis. Mm. C'est-à-dire, justement, avoir un butler qui arrive, qui désamorce le truc avec humour, et derrière un Tretton, donc le président machin, qui va arriver avec son balai dans le cul, comme d'hab, et qui va nous faire
PlayStation is so proud to have a new service. Il va nous faire chier pour nous expliquer rien de plus qu'on ne sait déjà, à part qu'ils sont super désolés, bien évidemment, et qu'ils nous offrent des jeux gratuits dont tout le monde se fout. Parce que franchement, les jeux qui sont proposés.
Ah, on a la liste là.
Ah ouais, elle est tombée. Elle est tombée.
Bah, y a Wild Age des Furies, mais c'est que des vieux trucs en fait.
Bah ouais, c'est que des vieux trucs. Enfin, bon,
c'est pas grave, il y a une Famous 2 qui sort bientôt. Faites-le. Faites-le
ouais,
premier, si
ça
vous
me fait penser, je sais pas, au cadeau de Noël quand on t'offre des chaussettes quoi. C'est, le geste est beau, mais tu t'en fous complètement quoi.
On t'offre des chaussettes à Noël.
Non, mais c'est pas grave.
Non, c'est une image. Mais en fait, tu sais savoir qu'il a une case dans son cerveau qui lui sert à générer des images.
Exactement.
Pour tout sujet.
Non, mais c'est une image commune des grand-mères qui offrent des pulls et des chaussettes à deux balles. C'est trop cool. J'adore le fuchsia.
Alors c'est une vraie histoire, ça, quoi. C'est une vraie histoire, non? Cette histoire de chaussettes fuchsia, là, faudra que tu nous racontes.
Pas, mais j'ai un cerveau fertile. Et donc, oui
ça peut être marrant, des chaussettes fuchsia.
Oui.
Mais où est-ce qu'on en était?
Bah, je sais pas. Bah, que, en gros, vous pensiez que ça allait plutôt être sérieux. Moi, je pense que ça va être les deux. Voilà. Mais
bien
que
nous
du coup,
bien.
Et que du coup, il va avoir quelque chose à l'E3 dessus. Et pour être sûr qu'on rate rien sur la question de Fallait, le piratage pourra totalement en partie modifier le déroulement de la conférence. Je pense pas.
Non, mais bon, à cette époque de l'année, elle est pas écrite exactement. Quoi. Ils savent à peu près ce qu'ils veulent annoncer, mais elle est pas.
Puis d'autant qu'ils ont énormément de choses online. Uncharted multijoueur, journée sur le PSN et compagnie. Donc ils vont justement montrer, maintenant qu'on est de retour, regardez, on a plein de trucs. Ouais, c'est super. Et abonnez-vous PlayStation Plus.
Moi, je pense aussi qu'il devrait y avoir, en tous les cas, ça serait bien pour eux, un message envers les développeurs. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans l'assistance des conférences de l'E3, il n'y a pas que des journalistes, il y a des gens qui font partie de la distribution, c'est-à-dire les grandes enseignes, les acheteurs, etc. Et puis il y a des développeurs, évidemment.
Qui, eux, souffrent clairement.
Voilà, et qui ont eu de gros problèmes vis-à-vis de ça par rapport au calendrier de sortie, par rapport à leurs propres revenus à eux, etc. Mmh. Et je pense que Sony devra en priorité parler à ces gens-là parce qu'il n'y aura pas de GDC d'ici là. Quoi.
Bah, j'espère qu'ils l'auront fait avant, quand même.
Oui, bah, en termes privés, mais enfin, l'envoyer un message par rapport à ça, à ceux qui
Est-ce
sont
que tu penses qu'on va avoir une nouvelle courbette de Kazirai?
C'est fort possible.
Moi, je pense aussi. Juste pour marquer le coup publiquement devant tout le monde.
On fait pas de courbettes aux États-Unis.
Ah ben, Kazirai est président de Sony Monde.
Oui, je sais, mais là, c'est le 3.
Et il est japonais.
Non, mais tu sais, le japonais qui s'excuse à la japonaise face à l'Occident, c'est très, très impressionnant quand même.
Marquer les esprits, c'est toujours important en termes de communication.
Il est peut-être arrivé à
Depuis le temps qu'il a fait des courbettes, ça se trouve, il arrivera même déjà courbé.
C'est
avec
ça.
Le dos coincé.
Bon, allez, on va passer à autre chose. Fini le PSN pour ce courrier des lecteurs. On va poser une nouvelle question, celle de Néon 236, mais qui revient finalement d'une certaine manière sur la crise du PSN et qui englobe d'autres choses. Non, vous allez voir pourquoi. Parce que j'ai pris la fin de sa question parce qu'il y avait plein de choses avant. Mais sa vraie question, c'est ça. Ma question... Comment pouvons-nous nous proclamer médias matures quand on voit que les principaux acteurs, nous, les joueurs, en manquons cruellement? En gros, il soulignait à quel point justement cette crise du PSN et d'autres éléments avec ça déclenchent dans les forums du trollage à ne plus savoir qu'en faire, de l'immaturité verbale, que les gens sont obligés de prendre des partis pris totalement débiles.
En même temps, va faire un tour sur les sites de l'UMP, du Parti Socialiste et compagnie.
Le Figaro.fr, je vous conseille. Ouais. En mode trolling, c'est
voilà,
pas
le trollage n'est pas l'apanage du jeu vidéo.
Tout à fait.
C'est une réflexion intéressante, hein, mais elle se vérifie pas en fait.
Exactement.
Mais c'est vrai que bon, faudrait gagner en maturité sur plein de sujets.
Mais alors après, on peut dépasser le stade juste des forums, et c'est vrai que globalement, même le média, même la presse jeux vidéo, même enfin, moi je trouve clairement quasiment beaucoup d'acteurs dans le jeu vidéo, des développeurs, des éditeurs, etc. Ça reste très adolescent encore dans la manière de.
Vachement moins qu'avant quand même.
Bien sûr.
Parce qu'on a quand même, voilà, c'est l'âge moyen du joueur augmentant.
J'ai cru que t'allais dire l'âge du jugement dernier.
Non. L'âge du joueur moyen augmentant, je trouve que quand même, on fait notre boulot, on fait des trucs toujours plus professionnels en fait, de notre côté en tout cas.
Ouais, mais en fait, il y a deux tendances qui sont un peu opposées, c'est-à-dire que d'une part, on essaye effectivement de faire avancer le média, d'être plus mature, etc., dans notre traitement, et puis pour les développeurs dans les jeux, etc., qui développent. Et d'un autre côté, on essaye de ne jamais oublier qu'il s'agit quand même de divertissement.
Exactement.
Donc quelque part, c'est un peu antinomique. On peut pas, enfin, c'est difficile, disons, de trouver ce juste milieu et de dire aux gens attendez les gars, on est un peu là pour déconner quand même un peu et on peut faire des vannes rigolotes. Et puis oui, mais rester un peu mature quand même. Donc après, c'est vrai que ça complique un peu les choses.
Mais c'est toujours le même problème de vouloir donner une légitimité aux jeux vidéo en apposant voilà, ces termes matures, professionnels. Dans d'autres divertissements, on n'a pas ce problème. Enfin, je sais pas, par exemple, c'est un peu débile comme rapprochement, mais je pense au football, au sport. Personne ne considère que c'est gamin de taper dans un ballon, alors que c'est pas forcément... Oui, toi, évidemment, t'es anti-football. Mais je veux dire, il faut toujours... je sais pas, on cherche toujours à vouloir dire que le jeu vidéo doit être plus mature,
bah ouais,
plus
mais
professionnel.
Le football, ça a 150 ans. Le cinéma,
c'est justement pour qu'on se pose plus la question en plus, je pense.
Mais c'est ça, moi, c'est cette quête à la légitimité.
Mais elle viendra, la légitimité. Voilà. D'ailleurs, c'est pas loin d'arriver, je pense. Et une fois qu'elle sera là, on se fera plus chier avec ça.
Mais qu'est-ce que tu mets derrière cette légitimité ? C'est
la variété des offres, l'ouverture d'esprit, le traitement de certains thèmes ou émotions qu'on n'a pas encore pour un média qui est par rapport au cinéma ou à la littérature. Tout un tas de choses.
On est passé du jeu pour enfants à une œuvre beaucoup plus large, effectivement. Il y a des jeux pour adultes, des jeux pour enfants, des jeux pour ados.
Tu dépasses le jeu électronique pour aller à quelque chose qui est plus.
Que ce soit juste un média, quoi. Et qu'il y ait une diversité incroyable, ce qui est déjà à peu près le cas.
Parce que le cinéma, c'est un divertissement aussi. La littérature, c'est un divertissement aussi.
C'est un art,
c'est raconter des histoires. Maintenant, elles ont été élevées au rang d'art. Et on sait pourquoi, et probablement à raison aussi.
C'est Transformers.
Voilà,
pour le cinéma, par exemple.
C'est certain.
Armageddon.
Armageddon.
Donc voilà, on arrivera à ça assez vite aussi, je pense. Je sais pas.
Moi, je pense que la légitimité, elle arrive.
D'ici une vingtaine d'années, ce sera bouclé. On en parlera
moins
plus,
que ça.
Hein.
Moins que ça.
Mais effectivement, pour la partie forum, c'est sûr que malheureusement, le net permet aux gens de déverser leur intelligence.
Voilà, c'est plus.
à la vue de tout le monde.
Mais donc partout, hein, quand en jeu vidéo ailleurs, c'est Internet en fait.
C'est même pire ailleurs.
C'est la tribune libre en fait. La tribune libre et anonyme. C'est ça qui fout le bordel.
Et mon parallèle avec le football était quand même sacrément pourri. Mais bon, j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire.
T'es pas aussi doué que ton voisin.
Exactement.
Allez, nouvelle question de Bandini. Bandini qui nous demande. Concernant votre rencontre avec le grand Miyamoto, je me demandais quelle était votre marge de manœuvre concernant vos questions. Est-ce que dans des cas de ce genre, vous avez une clause à signer ou un truc moral vous empêchant de 1. poser les questions fâcheuses qui pourraient anéantir le marketing. Allez, on est entre nous, dites-nous tout sur cette fameuse nouvelle console. 2. Dévoiler de toute façon certains détails qui se seraient échappés. Oui, je bosse sur F-Zero Online en collaboration avec Criterion Games, une grande première pour Nintendo. Est-ce que... on vous a demandé vos questions avant. Bon, il y a plein de questions dans ta question, Bandini. Mais on va y répondre extraordinairement rapidement. Bah, je crois non à tout, en fait. 1, on ne nous a pas demandé nos questions avant. 2, on a le droit de demander ce qu'on veut. La seule réalité, c'est qu'on nous a dit « Monsieur Miyamoto est là dans le cadre de... il veut parler de la 3DS, etc. » Vous l'avez noté. On a respecté dans un sens quelques questions de la 3DS et dans un autre sens, voilà. On a pu s'empêcher de lui poser des questions sur autre chose, par exemple lui proposer une tasse de café pour lui faire réagir là-dessus. Après, il faut savoir aussi que on n'est pas con non plus. On sait très bien que Monsieur Miyamoto,
mais lui, c'est pareil.
Quelques jours, voilà,
évidemment,
de l'E3, ne va pas faire des scoops retentissants. On a l'habitude, on travaille. Bon,
pourtant,
avec eux.
Il en a fait quelques-uns. Hein.
Il a dit des choses à mots couverts, mais il a dit un peu plus que d'habitude.
Ouais, ouais.
C'était d'ailleurs le but de le faire réagir avec des objets et non des questions finalement assez traditionnelles. Parce que oui, on pourrait le pousser et faire « Mais attendez, là vous êtes langue de bois, dites-nous tout !» Mais très honnêtement, il dirait rien de plus.
Bah, il répond ce qu'il veut, surtout.
Bah voilà, il se braquerait, il ferait « Bah non, attendez, attendez
si
une communication. »
C'est ça.
Si je le casse la gueule. Bah, donc voilà.
Si
donc...
tu le frappes avec la tasse de café.
Après, chaque personne est libre de poser les questions qu'il veut, donc soit totalement respecté, on pose que des questions sur la 3DS, machin, etc. Nous, on lui a posé aussi des questions sur le marché du smartphone, sur la crainte que peut-être avoir Nintendo par rapport à ce machin, et il a répondu de manière finalement très franche, avec plein de choses, plein d'informations. Mais non, on nous demande pas nos questions, en tout cas dans le cadre de Miyamoto. Parfois, ça arrive. Alors, pour être tout à fait franc, nous, on aime vraiment pas ça, et généralement, on est assez strict là-dessus en disant voilà les questions, mais on les changera pas. Donc après, vous pouvez dire genre celle-là, machin, mais on la posera quand même. Ce qui nous a parfois valu des petits regards et petits commentaires derrière, mais enfin bon. Mais voilà. Après, la marge de manœuvre donc est grande, sauf que on est en conscience de ce que ces gens peuvent pouvoir nous dire au moment T. Et
mais
donc,
d'une manière générale,
rien non plus de...
je crois qu'on ne conçoit pas, parce qu'on fait vraiment beaucoup d'interviews par rapport à beaucoup de nos confrères, et c'est vrai qu'on aime pas mal ça, je crois qu'on ne conçoit pas non plus l'interview comme une...
Un affrontement
Bah si, c'est un affrontement, mais cordial. En
oui,
fait.
Voilà.
C'est-à-dire qu'on va pas chercher à insister.
Oui, c'est un peu...
Parce que t'essaies de faire dire des choses intéressantes à une personne qui n'est peut-être pas disposée à parler d'un sujet, par exemple. Ouais. Donc il y a quand même un... Affrontement, c'est fort, mais c'est pour ça que je disais cordial.
Non, mais en politique, mais... par exemple, un journaliste va faire... Non, mais attendez, ouais, on répondez pas, machin. Mais effectivement...
c'est un tout autre sujet, quoi.
Oui, bien sûr.
Donc on n'est pas là pour tirer les vers du nez des affaires incroyables sur Miyamoto et sa vie privée.
Non, mais ou même café. On pourrait poser 15 fois la question, genre, mais non, mais bien sûr que vous, on sait que
ça
vous travaillez dessus.
Rien.
Quel est son nom? Il va faire, bah, t'es mignon, mais je vais pas te le dire. voilà, c'est tout.
Si ça te dérange pas, on comptait en parler à l'E3.
Bah, ouais. Et t'as beau faire ton journalisme total, tu l'auras pas cette info, quoi, ouais. C'est tout.
Non, mais tu lui as mis quand même ta carte de presse en pleine gueule pour
Je l'ai brandi comme ça.
Il faut brandir la carte
attends,
de presse.
Attends, on est en
quand
France,
quand
Coco,
merde.
Là, tu vas pas nous la faire à l'envers. D'ailleurs, il me l'a dit en off. Ouais. Elle s'appellera la Wi-Fi.
Enfin bref, donc il n'y a pas d'attaque à avoir, c'est pas une méthode constructive en tous les cas pour obtenir des informations.
Mm-hmm. Et puis c'est la séduction, l'interview aussi.
Ouais, c'est exactement ça.
C'est bien la sûr, discussion, quoi. C'est, ouais. Voilà, t'as quelqu'un sous la main qui, avec qui tu peux avoir une conversation intéressante sans l'affronter justement. Ah,
et puis
c'est...
surtout un type comme ça. Ouais. Mm-hmm.
Et dans notre milieu, effectivement qui est très différent de la politique ou d'autres domaines, c'est vrai qu'une interview, si vous voulez obtenir des choses, parfois justement, quand c'est agréable, quand il y a un climat intéressant et quand la personne voit en face que vous posez des bonnes questions, que vous allez aussi dans le fond, etc., est plus amené que si vous essayez de le braquer juste et qu'il voit juste que vous êtes là pour avoir un scoop dont il n'a rien à foutre.
Personne n'aime les fouilles merde, de toute façon.
Bah, ouais. Exactement.
Puis il ne faut pas oublier que c'est très maîtrisé quand même, hein, ces interviews, parce que les lecteurs n'ont peut-être pas idée.
Malheureusement.
Il y a souvent
oui.
plusieurs personnes derrière. Qui,
ah oui, oui.
Voilà, il y a des jeux de regard. On
c'est
sait
même
ce
pire que ça, c'est-à-dire que les
pas.
Interviewés sont souvent avant la première interview. Un déroulé
mais oui,
et puis toutes les questions qu'ils peuvent avoir, ils sont coachés, etc.
Et il y a le filtre de la traduction aussi souvent.
Oui. En japonais,
ouais,
c'est
ouais, japonais là, sur,
on rate.
La réponse est non.
Exactement. Mais par exemple, pour être totalement honnête, transparent et franc, quand j'avais rencontré Hideo Kojima, on m'avait demandé de montrer les questions d'abord. Je les ai montrées, j'en ai pas changé une seule, alors qu'on m'a dit par exemple sur les questions de Zoé, etc.
Il voulait préparer l'interview en fait.
Non, parce que Kojima était pas là, c'était son service presse machin, et c'était vraiment dans la foulée. Il m'avait dit celle-là, en gros, le geste, pour ceux qui ont la vidéo, il m'avait fait.
Non, s'il vous plaît.
Je l'ai posé quand même et derrière ils me sont pas tombés dessus machin parce que ça c'est parce que l'interview s'est bien passé parce qu'il y avait d'autres choses, il a répondu en confiance. Voilà. Donc c'est vraiment pour préciser en totale franchise.
C'est un art en fait l'interview.
Tout à fait, ouais.
Et c'est passionnant.
Exact.
Allez, nouvelle question, celle de Akayami. Nintendo va-t-il être une fois de plus en retard technologiquement si Microsoft & Co. annonce une Xbox 720 et ou une PS4? Les éditeurs vont-ils se risquer à faire des portages de jeux 360 et PS3 sur le projet Café? Cette console aura tout de même manqué 4 ou 5 ans de jeux HD, elle devra encore faire ses preuves et une fois que la prochaine Xbox et PlayStation seront installées, on aura une nouvelle Wii, une console de la puissance de la génération précédente.
Bah oui. C'est
bah
exactement
oui.
ce qui va se passer.
Oui, sauf que pas, ouais. quand on dit genre cette console aura tout de même manqué 4-5 ans de jeux HD, bah, les développeurs comme joueurs et ça s'en foutent. Mais on s'en,
ouais,
on
ils
s'en
préfèrent
fout.
Que les jeux actuels sortent dessus.
Ouais. Bah ouais, donc
en gros, pendant 2 ans ouais. environ, on pourra jouer sur la nouvelle Wii de la même manière que sur PS3 et 360. Voilà. Donc on
non,
aura
mais attends,
les Call of Duty, on aura.
Il y aura
les...
peut-être. Y aura, parce qu'on peut observer aussi le phénomène 3DS hein, qui est finalement. Dans une certaine mesure similaire, c'est-à-dire que la puissance de la 3DS est grosso modo équivalente à celle d'une PSP, etc.
Grosso modo.
Ouais, grosso modo.
Dès
mais
que tu mets la 3D.
C'est plus qu'une DS, ouais. etc. Et ça permet de faire des jeux qui touchent plus
magnifique.
À ce qu'on a pu voir. Voilà. Mais c'est quand même pas très avancé, surtout pas par rapport à une NGP et aux consoles de salon. Et du coup, on se tape quand même un paquet de portages, de remakes, machin, etc. Et moi, je comprends que légitimement, on puisse se demander si les éditeurs vont pas en profiter pour ressortir des jeux qui n'ont pas forcément été très bien rentabilisés sur 360 facilement. D'ailleurs, d'après les rumeurs techniques, en tous les cas, c'est une console qui serait architecturée de manière à ce que ce soit simple de faire ça. Ce que je veux bien croire, effectivement, parce que ça serait malin de leur part. Et puis, s'ils arrivent à s'adresser, comme ils l'ont fait avec la Wii et la DS, à un public beaucoup plus large qui n'a pas forcément eu de console HD, c'est pas pour ça que ce public-là ne pourra pas être séduit sur cette console-là par des jeux traditionnels.
Mais justement, dans un certain sens, en tout cas sur une fenêtre avec une temporalité de 2 ans, comme le disait Julot, je trouve ça très malin parce qu'en fait, ils vont bénéficier de la dernière génération, donc du push technologique de, toute, de tous les jeux qui étaient dédiés à la 360 et la PS3, mmh. qui vont pouvoir être accueillis facilement, puisqu'elle sera d'une puissance équivalente, voire un tout petit peu plus puissante qu'une Xbox. Apparemment, c'est une architecture assez proche de la 360. Oui. Donc voilà, elle va bénéficier de tous ces gros jeux.
Bibliothèque.
Et puis après, effectivement, Microsoft et Sony risquent de reprendre la main technologique, mais pour autant, ça n'a absolument pas gêné la Wii, ça n'a absolument pas gêné la DS. C'est vraiment sur un autre public aussi. Et puis, voilà, la génération actuelle est quand même vraiment pas dégueulasse. Donc, même si bien sûr on s'habituera très vite aux prouesses technologiques des consoles qui viendront d'ici 2-3 ans. Bon, enfin, 2-3 ans,
c'est toujours le reste.
Et puis, beaucoup de choses peuvent se passer en 2-3 ans.
Bien sûr, et puis il y a le reste, il y a tout ce qu'on ignore sur ce projet café, sur cette histoire d'écran dans la manette, ces gimmicks de bruit de couloir où on entend des gens dire très proches de Nintendo qui disent oui, ils ont trouvé un truc, etc., vous verrez, machin. Il y a peut-être.
Tu peux la rendre unique aussi.
Oui, et puis même peut-être relancer des jeux avec de nouvelles idées, des versions en fait. Plus intéressante, je sais pas.
Et puis vous vous rendez compte d'un truc absolument scandaleux quand même. Il n'y a pas eu de F-Zero sur cette génération, sur Wii. Donc voilà, c'est pour ça que je partage avec Bandini la fin de sa question. Là, j'ai l'impression qu'il fantasme aussi sur un F-Zero sur la prochaine Nintendo.
Mais on ne sait pas en fait de quoi seront faites aussi les futures machines de Microsoft et Sony.
Mmh.
Et présumé qu'elles seront forcément sur le même créneau de
la puissance.
Pas forcément.
Ouais. Je pense qu'elles seront plus puissantes.
Oui.
Mais
de fait, parce qu'il y aura eu du temps qui sera passé, donc économiquement ça fera sens, mais. Je sais pas si ce sera aussi important que ça l'était.
Mais le succès de la Wii, le succès de Kinect aussi, prouve aussi qu'il y a une autre voie qui coûte de l'argent. C'est de la technologie, mais qui n'est pas forcément dans les graphismes et qui plaît vraiment aux gens. Quoi.
Ouais.
Donc, à suivre. On en saura bien évidemment plus tout début du mois de juin à Los Angeles pour l'E3, où Gameblog sera bien évidemment présent pour vous faire vivre ça. Live! Plein d'événements, ça va être complètement dingue. Nouvelle question de Naked Vince. Petite question qui n'a rien à voir avec le PSN, merci. Que pensez-vous du nouveau Silent Hill? L'absence d'Akira Yamaoka va-t-elle marquer un véritable renouveau dans la série? Ou alors pensez-vous que.
Heureusement qu'il s'est barré, t'es enfoiré!
Se basera sur les épisodes précédents pour proposer une simple suite.
Bah, c'est pour toi ça.
Silent Hill Dawnpour, donc comme il s'appelle. Je sais pas pourquoi, mais je le sens bien. Je sens qu'il y a une vraie volonté de renouveau. Alors oui, effectivement, l'absence d'Akira Yamaoka, c'est le pauvre gars qui nous a quand même fait des musiques incroyables, qui a vraiment été l'une des âmes des Silent Hill, le seul en tout cas à être là depuis le premier, ne participera pas à celui-là. À mon sens, c'est un petit peu dommage. Voilà, mais c'est pas très grave non plus, en tout cas on le verra. Le compositeur des musiques, c'est le compositeur des musiques de Dexter, la série, donc ça va. On devrait avoir une ambiance plutôt lancinante et mystérieuse. Les dernières images qu'on a pu découvrir sur Dawnpour, moi franchement, il y a l'air d'avoir un vrai changement d'attitude. Il y a des séquences beaucoup plus action, mais ils l'ont vraiment souligné. En gros, dynamiser la série sans, justement, mais en revenant à la source, c'est-à-dire la peur psychologique, le stress, l'histoire, l'émotion. Pour moi, la série des Silent Hill, en tout cas sur les. Allez, deux, trois. Allez, même Jean Globerel, le troisième épisode. C'est vraiment des jeux uniques, incroyables, qui te font bouger
stressé.
Le bide.
Vraiment
comme
flippant.
Aucun autre jeu. Mais pour moi, plus que flippant. Absolument perturbant.
Oui,
aucun autre jeu m'a fait ça. C'est-à-dire que ouais. Resident Evil ou même Project Zero, qui sont très flippants, ils te font flipper.
Oui, j'ai pas précisé parce que moi, ce qui me fait flipper, c'est justement ce truc à la Silent Hill, de trucs vraiment perturbants.
C'est la folie, quoi.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Project Zero est quand même vachement plus proche de Silent Hill que au niveau de
la flipper. Oui, Project Zero,
Project
c'est
Zero
quand même compliqué
est infiniment
d'avancer.
Mais oui. Je l'ai pas trouvé malsain au point
d'en avoir
peur pour ma santé mentale. Quoi.
Ouais.
Alors que Silent Hill, vraiment, dans le 2 essentiellement.
Il est sale.
Il est sale et il va chercher
des
trucs au fond de toi qui te questionnent et qui. Vraiment. Donc j'espère qu'ils arriveront à faire ça. J'espère aussi qu'ils réussiront, parce que c'est important dans l'évolution d'une série à la dépoussiérer aussi un petit peu. Donc apporter de la nouveauté. Ce qui est clair, c'est que clairement, pour répondre à ta question, Naked Vin, ça ne sera pas une simple suite. il y a une vraie volonté de renouveau. Et maintenant,
c'est un reboot. Un
j'espère
peu.
Que ce sera bien. Après, franchement, on n'y a
pas
joué encore.
En tout cas, ça
a
de la gueule. Visuellement, c'est vraiment joli et c'est dans l'esprit Silent Hill, bien que voilà, on sente que ça soit une... que c'est une patte plus occidentale, quoi, dans les graphismes. Mais c'est super joli et attirant.
Ce qui n'est pas le cas des projets Resident Evil, qui sont en train de se fourvoyer totalement, à mon sens.
Ouais, mais qui
les
pourtant.
Les 3DS, tu veux dire
Non, plutôt le. Tu sais,
ah oui, Raccoon City.
Celui qui
est
développé par des Américains qui sont occupés de.
Canadien,
il y a Six Land Six Game. Mais voilà, qui donne la part belle à l'action exclusivement. Bon.
Bah, malheureusement, parce que je suis totalement d'accord avec toi, Tiger, malheureusement, l'économie
oui, bien sûr.
Leur donne raison.
Le 5
parce
a cartonné.
Ils en vendent des pelletés avec les Silent Hill. Malheureusement, c'est un petit public. À la fois, c'est un peu moins accessible, il faut bien le reconnaître. Mais à Gameblog, effectivement, on a un petit penchant, en tout cas sur les derniers. Bon, pas forcément les derniers temps, mais. Parce que le
coprofil.
Très bien, Raon, merci. même si, bon, Homecoming n'était pas terrible et que l'épisode sur Wii était vraiment pas mal.
Bien trouvé,
Maurice.
Ouais, intéressant.
Avec
intéressant.
La glace et tout, c'est ça.
Ah, et surtout le côté psychologique, on remplissait des trucs, des analyses. Enfin,
t'étais chez le psy, en fait, et tu revenais sur tes souvenirs
ça,
du premier.
Ça, c'était bien, ça.
Déjà, l'idée est bien.
Ouais. C'était intéressant, ouais. Allez, nouvelle question. Question de Anne Falmire. Homefront et Brink sont des titres qui ont suscité un engouement et une attente assez forte de la part des joueurs et des journalistes. Comment se fait-il qu'on les découvre au final techniquement moyens, alors que les premières impressions de la presse étaient dithyrambiques ? Est-ce la faute à des présentations truquées ou à un calendrier impossible pour les développeurs ?
Un calendrier impossible pour les développeurs.
Les présentations truquées.
Alors,
les présentations, évidemment, le but des présentations, c'est toujours de montrer le truc sous son meilleur jour. Donc, il est évident qu'ils vont éviter de faire des présentations de merde pour commencer. Ça, voilà. c'est certain.
Pour ça qu'ils mettent de l'alcool dans l'eau déjà,
oui,
pour
aussi,
que les journalistes soient joyeux.
Alors, le calendrier impossible pour les développeurs, j'imagine qu'ils voulaient dire que le jeu serait sorti prématurément.
Peut-être.
Ouais, que les développeurs sont trop pressés et que même quand leur jeu n'est pas fini, ils doivent le sortir à l'heure et que machin.
En fait, je pense. Oui, c'est ça, ouais. Il y a de ça aussi. Mais enfin, Homefront, la seule véritable présentation à laquelle on a assisté, c'était celle de l'E3 2009, je crois, la première. En 2010, il n'y était plus. 10, il est sorti 9, en 2011, c'est ça.
Ouais, ouais. Et à l'époque, c'était vachement bien pour 2009.
À l'époque, c'était vachement bien, mais bon, il y a eu un peu 2 ans et demi de jeu entre temps.
Ouais,
donc voilà. Et puis alors, concernant Brink, il y a une autre composante qui est importante. C'est que les présentations ont toutes été faites jusque pratiquement la fin
sur PC.
Voilà, sur PC. Et évidemment, c'est pas la même chose parce que ce sont les versions console qui ont des problèmes en tous les cas visuels qui sont pas à niveau, mais la version PC est très correcte de ce point de vue-là. Donc après, on peut parler que de ce qu'on voit, évidemment. Après, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'on a été si dithyrambique que ça.
Bah,
sur les
moi non plus. Homefront, je m'en rappelle, puisqu'on l'avait fait ensemble. Effectivement, on était sorti, on avait fait une Gameblog TV, donc en 2009. Plutôt
très positif.
Mais après, effectivement, comprenez bien, par exemple, sur un salon, qu'on ne peut juger que ce qu'on voit et du discours d'intention, entre guillemets, des développeurs. Ce qu'on a vu nous avait techniquement été vraiment à niveau. Et l'ambition derrière, qui était très narrative, qui mêlait plein de choses, et ce qu'on en voyait, qui était correct et qui validait ce parti pris, ce discours, faisait qu'effectivement. Avec les bémols d'usage, puisqu'on pouvait pas dire ça va être un grand jeu, mais enfin ça s'annonçait comme un grand jeu. En cours de route, ils ont eu un petit peu plus de mal à valider cette direction là, mais
on peut jamais savoir de toute façon. Et puis il y a tellement d'accidents, c'est tellement compliqué de faire un jeu sur d'aussi grandes périodes, parce que c'est minimum 2 ans pour des titres comme ça de boulot. On peut jamais savoir. Donc
ce qui serait dangereux pour la crédibilité de Gameblog en l'occurrence, c'est de vous tenir un discours dithyrambique du début jusqu'à la fin et d'avoir un test avec une note incroyable et que vous vous rendiez compte que c'est pas si bien que ça. Là en l'occurrence, on a effectivement eu un discours initial sur ces deux jeux plutôt positif.
Et c'est séduisant par rapport à ce que nous on apprécie aussi, hein, parce que c'est vrai que là on parle beaucoup de technique, de visuel, de graphisme, etc. Mais dans l'absolu, c'est pas forcément ce qu'on va chercher en premier. Oui, dans une présentation qui va durer, parce que d'habitude c'est souvent ça va être
10-15 minutes.
Voilà, maximum. Donc ce sont vraiment des temps très courts pendant lesquels les développeurs doivent impressionner. Souvent, la technique et le visuel font partie du jeu. C'est une arme simple pour séduire une audience.
Et le son chez Electronic Arts.
Oui. Oh là là,
t'en péter les tympans.
Ça, c'est plus du tout là.
Ah ouais,
les présentations Electronic Arts, je ne veux plus y aller.
Moi, j'ai peur pour mes oreilles. Moi, après.
Oui, on se mettra au fond d'ailleurs cette année. Parce que...
Ah non, mais moi, je bouche les oreilles.
Et au
du coup,
fond, il y a des
enceintes,
mec, il y en a partout. Pourquoi tu crois qu'ils arrivent à mettre le son si fort? Il y en a pour chaque siège. Il y a une enceinte qui est grande, qui fait 2 mètres de haut. tout. Elle est juste à côté de toi.
C'est horrible. Ouais. Donc tout ça pour dire que c'est pas la seule chose qui nous permet en tous les cas d'être enthousiaste. Et puis de nature aussi, on est plus du côté de la présomption d'innocence que d'une procès à charge, quoi. Ouais, c'est qu'on peut pas dire tout est pourri avant d'avoir un
Est-ce
jeu
que
bien.
Tu dis ça par rapport à une
c'est
affaire,
trop pas du tout, du tout.
Mais c'est vrai qu'en plus, sur un salon, je veux dire, nous on adore notre boulot, on adore les jeux vidéo, et quand on est sur un salon, on est dans l'excitation, c'est juste normal. Ouais. Quoi.
Et puis surtout, on voit tellement de jeux que quand il y en a un qui sort un peu du lot par un visuel ou par une idée ou par machin, bah forcément on a envie, et au fond c'était le cas. C'était après, en plus, il sortait de nulle part, on l'attendait pas, on s'en
voilà, c'est la première surprise en plus, c'est très agréable.
Donc c'est une bonne surprise.
Je crois qu'il faut partager l'enthousiasme, et l'enthousiasme c'est important.
C'était il y a 2 ans et demi, 3 ans.
Oui, puis est-ce que l'engouement des joueurs n'est pas aussi un peu biaisé par une campagne marketing phénoménale qui fait qu'on s'attend peut-être à un jeu de qualité, parce qu'on se dit si l'éditeur le soutient à ce point, c'est qu'il y a vraiment
Brink,
quelque chose.
Ça y va.
Et qu'une fois que ça arrive, on se dit soutien, ouais. Ah, c'est que ça. Tu vois. Parce que il y a quand même certains éditeurs, quand ils savent que, faut le dire, hein, quand ils savent que le jeu ne fera rien et n'est pas bon, ils s'embêtent pas, ils font pas des campagnes marketing de ouf, quoi. Donc quand on est face à des campagnes ça comme dépend, ça aussi colossales, on se dit ah, c'est peut-être que.
Mais les éditeurs misent aussi.
Pour pousser à fond derrière.
Les éditeurs misent aussi, évidemment, bien en amont. Ils disent. Ils ont un calendrier de sortie qui est étalé et prévu 2, 3, 4, 5 ans à l'avenir, et puis ils disent bon, celui-là il va falloir qu'on le pousse, moi j'y crois, etc. Alors que les mecs souvent aussi, ce qu'il faut savoir c'est que les développeurs ne tentent pas tout au long du projet de séduire uniquement des journalistes, ils essayent d'abord de séduire aussi des financiers, des éditeurs. Ils font ce qu'on appelle des proof of concept, c'est-à-dire, ou des vertical slice, ou peu importe les noms qu'on lui donne, mais c'est des bouts de jeu comme ça, qui sont censés représenter la qualité du produit final, etc. Alors qu'ils ont peut-être 6 mois de développement à la ceinture sur leur projet, donc ils sont sans arrêt dans cette logique de séduction, donc ça fait partie du jeu.
Alors, est-ce que la question de Sokezman, qui est la prochaine question à venir dans ce podcast Courrier des lecteurs, va nous séduire?
C'est ça,
il est tellement à donf, Sokezman. Que fait rare à part se faire rare?
Très joli.
Moi
j'ai bien une réponse.
Tiger.
Rare s'occupe de tous les jeux Kinect de la firme Microsoft.
Pas tous, mais en tout cas,
je me suis mal exprimé. Il s'occupe quasiment exclusivement de ça maintenant. C'est-à-dire que les développements de jeux un peu plus ambitieux, visiblement, c'est plus trop à l'ordre.
Quasiment parce que le reste du temps, il pleure en fait.
Voilà. C'est ça. Voilà. Ou alors ils font des vêtements pour les avatars aussi.
Parce que par contre, c'est sympa ça.
Ouais. Ça dépend. Mais
ils sont plantés avec Nuts and Bolts commercialement. Ils sont plantés avec Viva Pignata.
Avec quoi?
Nuts and Bolts, le dernier Banjo et Kazooie.
Oui, d'accord.
Excuse-moi.
Moi non plus, je
crois que c'était un mec, moi.
Nuts and Bolts.
Nuts and Bolts. Qui c'est ce personnage que je suis.
Enfin, puis Viva Pignata 2.
Mais ils
pas
sont plantés sur quasiment tout ce qu'ils ont fait.
En fait, ils se sont plantés depuis qu'ils sont arrivés chez Microsoft.
Ça commence à être. Pas planté, c'est un bien grand mot, mais.
Ghouls and the Ghouls.
Disons que c'est plus du tout le même niveau de qualité.
Tu te rappelles du jeu là?
Mais non, je sais pas ce que c'est.
Mais quoi, sur Xbox, c'était un Ghouls and the Ghouls. C'était leur premier jeu.
Ah,
Un truc voisinant comme nom.
Ghost and the Ghosties. Je sais pas.
Grab by the Ghoulies.
Oui, c'est ça. C'était pas terrible.
Mais non, mais ouais, Grab by the Ghoulies, c'était pas terrible. Mais Viva Pinata 2, c'est très bien.
Viva Pinata, c'était bien.
Banjo Kazooie était très bien aussi.
Il faut accrocher la direction artistique. Moi, j'ai un peu de mal avec ça, mais c'était des jeux de qualité.
Mais apparemment, ils seraient en train de travailler sur Kinect Sport 2 et d'autres titres à annoncer, puisqu'apparemment à l'E3 chez Microsoft, il va avoir, mais alors, masse de jeux Kinect, dont
gamer,
pas mal de jeux Kinect. Mais alors, c'est pas sûr que ce soit Rare qui les fasse, mais plutôt apparemment, il y a un nouveau studio Microsoft dédié à Kinect qui a été ouvert et qui s'occuperait d'un FPS triple A complètement mystérieux et incroyable avec Kinect.
Alan Wake 2, ça se trouve, c'est sur Kinect.
Moi je pense qu'il y aurait un truc Kinect en tout cas dedans, quoi, au pire
un spin-off,
enfin, ou mieux selon qu'on voilà.
Mais le coup de la lampe torche, c'est pas con.
Bah oui, ça peut
mais
marcher
bon,
très
au bout
bien.
D'un moment ça va être un problème hein. Quand même
j'ai je mal au bras,
c'est ça. J'en ai marre.
Bon, enfin bon.
Ah mais non, mais j'avais juste mal au bras.
On en saura un petit peu plus sur l'actualité de Rare d'ici quelques semaines. Nouvelle question, celle de Ket.
Pardon,
Ket.
Ket.
On le sait tous, les trois leaders en matière de consoles de salon sont Sony, Nintendo et Microsoft.
Il n'y en a pas d'autres.
On le sait tous. Concernant les consoles portables, seuls Sony et Nintendo sont à même de satisfaire les joueurs. Vous avez sans doute déjà deviné, ou pas, l'intitulé de ma question qui est la suivante. Le duel des consoles portables se transformera-t-il un jour en truelle?
J'ai rien compris à cette question personnellement.
Est-ce qu'il va y avoir une console?
Est-ce que Microsoft va lancer une console portable? Voilà, c'était ça la question.
C'est un peu l'idée. Et alors, du coup, j'en profite pour glisser, parce que ça va nous servir pour ce petit débat sur la console portable et l'arrivée de Microsoft ou d'un autre acteur. La question de Lax qui dit: imaginez que demain, Samsung annonce sa console de salon. Quelle serait votre réaction chez Gameblog? En gros, les nouveaux arrivants, que ce soit dans les portables ou dans les consoles de salon, est-ce possible? L'envisage-t-on?
Mais rappelez-vous de la jungle. Comme Panasonic s'en mêle.
Elle est morte. Mais,
oui, elle est morte-née même d'ailleurs. Elle est même née morte.
Et la fantôme?
Ah ouais, ça c'était pas une console portable, mais c'était...
Non, mais c'était fantomatique.
Ah, parce que pour Samsung, c'est une console de salon.
D'accord.
Enfin, qui demande.
Alors, les portables, je crois que Microsoft, a priori Microsoft se focalise plutôt sur les téléphones portables,
oui,
avec Windows Mobile 7.
Phone,
mais le truc c'est que ça marche pas du tout.
Non.
Ouais, mais alors.
Du coup, est-ce que ça peut pas changer un peu d'optique?
Parce qu'en fait, tu sais comment c'est avec Microsoft. À chaque fois, ils se lancent sur un truc.
Ça marche pas.
Il y a une première génération où ça, ils se plantent, ils font plein d'erreurs et machin. Et après, ils reviennent.
Oh bah oui, avec le Zune, ça, c'est.
Non mais regarde, à l'époque d'ICQ, ils ont imposé
le Zune HD a pas mal marché.
Oui, mais il est même pas sorti ailleurs.
Oui, bah oui, mais
c'est bien
bon,
la preuve que c'est quand même pas. Non, mais si, mais je dis juste le truc sur Ozune. Moi, je suis pas persuadé, quoi, franchement. Enfin, à part là, parce que là, en fait, t'as en tête l'histoire de Vista et de Seven.
Pas seulement, l'histoire de la première Xbox et puis de la seconde, l'histoire du hardware PC.
C'est pas planté, elle est quand même.
Ça fait des très jolies tables basses, ouais, beaucoup d'appartements.
Non, mais je suis d'accord, mais même moi qui n'étais pas un pro première Xbox, beaucoup plus sur la Xbox 360, quand t'arrives sur un marché qui est tellement. Qui était quand même très fermé, ils ont réussi à devenir le troisième acteur.
Mais cela dit, la question c'est est-ce que le marché d'une console portable va les intéresser?
Moi je ne pense pas.
C'est ça, en fait. Ouais. Je pense qu'ils n'ont même pas envie, en fait.
Je pense pas non plus.
Ou alors ils vont avoir la bonne idée de copier Nintendo avant même la sortie de la nouvelle Nintendo, et dans les prochaines manettes de Xbox t'auras un écran et...
Voilà. Non mais je crois qu'avoir
tu pourras l'emmener comme console portable,
se focalise sur les téléphones, hein. Je pense
et les tablettes,
c'est vraiment leur stratégie. Oui,
et les tablettes.
En tout cas, pas de console portable.
Je pense pas non plus.
Ce serait très étonnant.
Et là, le 3, ils annoncent leur console. Et on a
on l'a dans le cul.
Positionne-toi, Julien. Positionne-toi.
Je suis pas persuadé qu'ils veuillent faire une console portable, effectivement.
On aura tous l'air con.
Je le sens pas trop. Mais par contre, effectivement, maximiser, faire arriver plus de leur licence Microsoft Games sur du jeu vidéo nomade,
oui,
ça,
sur l'Android Market,
il y a plus de heures d'argent à se faire comme ça, parce que mine de rien, sortir du hardware, c'est des dépenses.
L'Android Market, c'est Google. Oui.
Ils ont un market aussi.
Oui, ils ont le.
Bah oui, le.
Le Windows Market.
Le voilà. Windows Mobile Market.
Voilà, bah, bon, hein. Mais ça, j'y crois plus. Mais effectivement, se relancer dans une course au hardware qui coûte très coûteuse, sur un marché qui est déjà bien pris et dont en plus on a énormément de doutes, qui est très questionné aujourd'hui quand même. C'est vrai que la 3DS peine réellement. Là maintenant, on est à plus d'un mois de sa sortie, etc. Vraiment, pour en avoir discuté en plus avec des éditeurs dernièrement, ça fait quand même, ça commence à tirer la tronche, quoi, déjà. Donc,
attends qu'ils sortent ta version 2.0.
Il faut attendre aussi un peu. Hein,
Donc, en gros, bon, c'est pas forcément le marché qui est le plus. Puis il y a la NGP qui arrive. Bon, j'y crois pas non plus.
À la NGP?
Non, à l'arrivée de Microsoft.
Ouais, non. Je pense qu'ils ont même pas envie.
Et Samsung,
ils ont plutôt envie de niquer l'iPod que la 3DS. Terrain, là, ouais.
Je crois aussi.
Quant à Samsung.
Et donc Samsung, donc l'arrivée d'une nouvelle console de salon.
Alors là, par contre, moi j'y crois à fond. Et surtout Samsung.
Pour moi, c'est surtout Apple.
Il y a Poufu qui éclate de rire derrière la caméra.
Samsung, j'y aurais cru il y a encore quelques années.
Et mondialement.
Non, Apple, ils vont sortir une télé.
Oui, bah
et
voilà.
Dans la télé, t'auras un market qui permettra de mettre des jeux.
C'est ça, oui,
voilà.
C'est ça.
Donc, mais en fait, ça sera pas dans la télé vraiment, en fait. C'est une illusion. Il sera plus loin dans des serveurs.
Voilà. Oui, mais pour moi, quand je dis nouvelle console, finalement, c'est ça. Ça veut dire un nouvel acteur majeur sur
Samsung,
la manière de jouer avec sa télévision.
La haine qu'ils ont envers Sony. Et l'envie de devenir en fait le nouveau Sony, de remplacer Sony dans l'esprit des gens, etc. Ils vont faire une console, j'en suis sûr. Et en plus, c'est coréen, donc ils ont le marché quand même avec eux.
Globalement ou juste sur le marché asiatique?
Ah non, globalement.
Truc, voilà.
Tu rigoles, bien sûr. Non, globalement.
Bah moi, j'irais vraiment
plus
quelque
chose.
Mais aujourd'hui, j'y crois vachement moins parce que ils sont très proches de Microsoft, Samsung. Ils n'ont jamais vraiment montré finalement de velléité dans le domaine. Les nouveaux trucs qu'ils ont lancés avec un petit peu de hardware et de software, franchement, n'ont pas très bien marché. Le marché est vraiment en train de changer très très rapidement. Et moi, pour moi, surtout, Apple va vraiment rentrer dans ce créneau. Mais là, dans les mois à venir, les années maximum. Et là, franchement, arriver dessus, alors là, bon courage, quoi. Mais vraiment bon courage, parce qu'il va y avoir quand même Sony qui n'a pas dit son dernier mot,
maintenant.
Microsoft qui n'a pas dit son dernier mot, Apple, Nintendo bien évidemment. Là, ça veut dire, en gros, pour moi, ça veut dire que si Samsung arrive, ça veut dire qu'il va y avoir 5 acteurs. 5 acteurs, c'est trop.
Tu sais qu'en France, pardon, les téléphones les plus vendus sont vendus par Samsung. Mmh. C'est-à-dire que les Français ont des Samsung majoritairement.
Mais dans le monde aussi.
Donc il ne faut pas minimiser la puissance de ce groupe, je pense.
Ah bien sûr. Par contre, il y a un autre élément qui est fondamental dans le lancement d'une nouvelle console, ou comme de toute console, c'est le catalogue de jeux et le contenu.
Mais oui.
Et avec trois acteurs majeurs qui cherchent chacun à personnaliser leurs propres exclusivités.
Il y avait déjà des histoires de licences, de machins, etc.
Ils ont lancé les nouvelles licences pour la PlayStation.
Et les gens comme
nous
qui étaient gamers à l'époque se disaient, mais attends, qu'est-ce qu'ils viennent foutre là?
Mais attends, je soulève juste qu'on en a pas parlé, c'est tout.
A lancé son service de genre iTunes-like, etc. Mm-hmm. Enfin, App Store, ça marche pas du tout. Mais genre, pas du tout. Pas du tout.
Bah, là-dessus.
En tous les cas, je veux dire, ils ont pas seulement à créer une console et à séduire le public avec cette machine. Il faut qu'ils séduisent aussi des développeurs, même peut-être nouveaux ou coréens, j'en sais rien. Je dis pas qu'il faut qu'ils séduisent des développeurs qui existaient déjà, mais en tous les cas, il faut qu'ils arrivent à imposer une ligne éditoriale. Ce que Sony avait très, 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 très bien fait à l'époque avec des nouvelles licences. Effectivement, qui colportait une certaine image.
Pour moi, ils ont raté le coche. Il était à prendre il y a... Tu vois, je t'avais dit qu'il allait nous faire chier ton téléphone rare. Tu vois, je t'avais dit. Il y a 2 ans, et c'est Apple qui a pris ce créneau.
On parlait de la PlayStation, on n'était pas dans le même contexte aussi. C'est-à-dire que la Play arrivait aussi avec une technologie supérieure. Il y avait le CD-ROM qui arrivait. Enfin, là, ça me paraît compliqué, quoi. À moins de proposer quelque chose de technologiquement révolutionnaire ou plus évolué, de se faire un prix au soleil maintenant à un prix correct.
Mais c'est toujours
ça
possible.
C'est compliqué.
Mais s'ils l'incluent dans leur télé,
ça va être encombrant comme console.
C'est ce que compte faire Apple, quelque part.
Non, mais Apple va faire ça parce que toutes les Apple TV seront directement reliées au NES.
J'adore comment on parle d'un truc, tu sais, mais genre, on est Apple TV. Bon, mais a priori, ça devrait être le cas, mais bon.
Quelle serait votre réaction?
Et qu'ils ont déjà leur service derrière, tu vois, ils peuvent distribuer de la série, du film et du jeu hyper facilement. Et ils ont un écosystème avec les tablettes, avec les téléphones, avec les iPods, etc. Donc c'est...
Bon, en gros,
le problème, c'est que Samsung ne sait pas faire de soft alors qu'Apple sait en faire.
Ouais. Et c'est bien vendre ceux des autres. Et se prendre une petite com qui va bien avec. Donc, Julo, toi, tu croirais Samsung ou autre chose, mais un autre intervenant.
Samsung se positionnait, ouais.
D'accord.
Pas un autre intervenant, je vois pas qui d'autre, en fait.
Que Samsung. Pas un chinois, par exemple. Alors qu'il y a une nouvelle console qui vient de sortir.
Ouais, probablement la Chine, ouais.
Bah, iSec.
Ouais, mais il en sort tous les deux jours.
Non, mais là, c'est une vraie, là. Enfin, genre, c'est une vraie. Genre, avec une.
Elle est pas en carton,
réfléchi pour avoir des jeux distribués.
C'est pas de 2000 ROM Mega Drive dans une skin de Wii.
C'est ça, voilà.
Bah, avec 1 milliard de joueurs potentiels.
Bah, oui. Qui pirate tous.
Une console Samsung, si j'y crois.
Ou autre.
Très,
oui.
Sous la forme telle qu'on l'envisage, genre une PlayStation 3, une Xbox, ça, j'y crois
télé,
pas.
Etc.,
une espèce de truc hybride, peut-être.
Ah, qu'ils fassent des petits jeux, oui, ça pourquoi pas, mais bon.
Mais je les vois pas. Je les vois pas sortir en grande pompe une console. Okay. Voilà la console Samsung.
Ah bon.
Moi, j'y crois pas trop non plus. Je pense effectivement qu'il y ait de nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché et qui changent la donne, oui. De manière traditionnelle, comme on l'a vécu avant, je suis moins persuadé aussi.
Moi, j'y crois pas. Enfin, j'y crois plus, en fait. J'y ai cru.
C'est donc 3 contre 1.
En tout cas,
j'y crois pas d'un truc qui puisse marcher. Hein, qu'ils aient soudainement la lubie de vouloir s'y lancer. Ça leur regarde, mais que ça marche, non. Norbert, nouvelle question. Dans l'un des podcasts, vous évoquiez le dédain des joueurs japonais par rapport aux jeux occidentaux, mais on remarque aisément l'ascendant pris par ces derniers au cours de cette génération. De fait, est-ce que l'avis des joueurs japonais a changé dernièrement? On sait que les grands créateurs comme Fumido Ueda ont récemment déclaré avoir adoré Portal 2. Comment se présente l'Occident au Japon au jour d'aujourd'hui? Il y a de plus en plus de développeurs japonais, en tout cas, qui disent, et ça c'est nouveau, apprécier les jeux européens occidentaux.
La réalité, on peut dire aussi que dans les charts japonais, on voit de plus en plus popper de temps en temps les grosses licences, Call of Duty, voilà, les gros titres.
Akihabara, des grosses campagnes publicitaires de jeux occidentaux.
Des grosses campagnes.
Halo aussi, c'était.
Ah oui, mais Halo, c'est le jeu de Microsoft numéro 1, celui qu'ils veulent imposer. Ils sont en train d'essayer de s'imposer au Japon.
Oui, ça ne veut pas dire qu'il y a un engouement.
J'ai pas de campagne publicitaire.
Par contre, il y a des boutiques d'import.
J'ai quand même jamais vu autant de jeux occidentaux ces dernières années.
Ouais. Mais par contre, c'est quand même un phénomène très restreint, quoi. Voilà.
C'est certain.
Il faut le dire. Les Japonais sont très difficiles sur le character design. Ah ouais. Sur, tu vois, il y a des choses qui sont. ils ont des attentes très figées un peu. Ouais.
C'est les hardcore gamers qui jouent à la 360.
Bah, en fait, c'est voilà,
exactement ça.
Nos équivalents nippons, ils s'intéressent évidemment aux jeux occidentaux. Ils arrivent à voir qu'il y a eu une petite peine du côté du Japon à s'inscrire vraiment dans la qualité des jeux d'aujourd'hui et tout. Mais les éditeurs et développeurs qui on parle à chaque fois nous disent « j'ai joué à Heavy Rain, j'ai joué à Portal, etc. » C'est vrai. Mais par contre, de là à dire que ça commence à s'imposer, c'est peut-être
pas le mot. S'imposer, je pense
pas.
Mais je pense qu'on est au tout début...
d'une mondialisation du jeu vidéo.
Exactement.
Parce que c'est déjà mondialisé, en fait. C'est le seul territoire, finalement, où il y a un peu de la...
Il restera toujours des exceptions là-bas, ils sont obligés commercialement, de toute façon, de le faire et culturellement de s'ouvrir à ce que produit l'Occident.
Parce que quand des noms, quand même, qui portent comme Fumito Ueda portent pas énormément, mais enfin bon, il est quand même entendu, on le voit souvent dans les tribunes de Famitsu, etc.
C'est un mec qui compte
en
beaucoup
tout cas,
plus
chez les joueurs.
Au niveau critique qu'au niveau commercial, c'est certain,
voilà.
Mais il compte. Oui.
Il compte. Hideo Kojima, qui a parlé dernièrement de son attente très forte sur Elle Noire, par exemple. Enfin, voilà,
c'est d'ailleurs un des développeurs qui a l'équipe la plus multinationale au Japon.
Pas encore, mais ils sont très peu nombreux quand même, mais ils veulent le développer.
Oui, il est très ouvert par rapport à d'autres.
Oui, bien sûr. Et ça, il le prône, et puis il va voir les studios, machin. Je pense qu'en tout cas, ça peut commencer au fur et à mesure à mettre des petites graines chez les joueurs japonais. Alors, effectivement, d'abord les hardcore, puis les corps, et puis peut-être au fur et à mesure un petit peu plus machin, de s'intéresser un petit peu plus. De toute manière, le Japon a besoin, je crois, de s'intéresser aussi un petit peu à ce qui se passe ailleurs.
Moi, je crois que ça pourrait donner un nouvel âge d'or du jeu vidéo japonais tel qu'on l'a connu par le passé. C'est-à-dire qu'il va y avoir j'envisage la possibilité qu'il y ait une phase de transition comme ça, où ils arrivent à bien agglomérer ce qui a été fait en Occident, et qui redépasse l'Occident en ressortant des jeux qui explosent la créativité occidentale.
Capcom.
Et tu prends le cas de Dragon's Dogma, qui ressemble à un jeu occidental, mais qui est fait par les équipes japonaises de Capcom. Parce donc s'ils arrivent à intégrer plein d'éléments de
gameplay, jeu occidental, moi personnellement.
C'est vrai.
Alors, dans l'esthétique quand même. Hein.
Bah non, pour moi ça me fait penser à Final Fantasy 14 ou 11.
Mais oui, c'était déjà le cas. Hein.
Bah pour moi un jeu occidental c'est pas ça du tout. Hein. C'est vachement plus sérieux visuellement, je sais pas, moi ça me fait pas penser à un jeu kawaii japonais, mais je sens que c'est japonais, quoi. La manière dont les personnages bougent, leurs attitudes, etc. Ça fait
au contraire, je me suis dit là, il y a quand même un œil d'expert aussi. Un gap justement qu'ont réussi à franchir les studios japonais qui, moi, m'a impressionné, quoi. Enfin,
mais parce que là, tu dis que en gros, que comme techniquement les Japonais étaient à la ramasse, quand il y a un jeu qui vient d'un studio japonais et qui est vraiment très abouti techniquement, ça fait occidental. Mais non,
c'est pas que technique, c'est même dans les environnements.
Le design des personnages,
ça fait plus Dragon Age que Final Fantasy, quand même.
Oui, ça, je suis bien d'accord. Mais je trouve que il y a un truc dans l'esthétique qui fait pas kawaii, hein. Ils ont pas des grandes oreilles, des grands yeux et machin, mais qui fait que
donne une
ça fait pas un occidental aurait pas fait ce jeu, je pense.
Non, mais il a raison. Peut-être. Mais c'est le problème, c'est que enfin
sur
c'est
les
pas strums, problème, mais...
sur la manière de se comporter, je sais pas.
T'as un œil qui est affûté pour ça. Je pense que pour la plupart des gens, tu leur montres Dragon's Dogma tel qu'on l'a vu et tu leur dis c'est un jeu japonais, les mecs vont faire quoi ? Ah bon ? Directement, quand tu vois l'image mangaesque, on va dire, qu'on a du design japonais par rapport à ça, c'est à des années-lumière.
Mais c'est marrant ce que tu dis parce que moi, justement, je pense que ce qui m'intéresse dans Dragon's Dogma, c'est justement cette espèce de métissage, c'est-à-dire que t'es pas vraiment dans le jeu occidental, pas vraiment dans le jeu japonais. Et par exemple, Witcher 2, qui a l'air d'être un jeu excellent, en termes de direction artistique, moi j'ai un peu du mal à me mettre dedans. C'est vrai que je suis plus un joueur de jeu japonais
que Dragon's Dogma.
Dragon's Dogma, qui pourtant est très occidental, c'est vrai. Qu'il y a peut-être un truc plus métissé
dans les créatures,
exactement, qui moi du coup me convient mieux.
Ouais, je suis d'accord.
Et si on arrive dans ce métissage là, je pense qu'on peut.
En fait, le problème c'est que ce métissage en fait
il est quand même terriblement de la gueule.
Mais
occidental, ça veut pas dire que ça a pas de la gueule.
Voilà, et je parle juste d'un point de vue d'une direction artistique. Par exemple, moi j'ai beaucoup de mal avec le personnage principal que je trouve juste ridicule, mais après vous pouvez le trouver très classe et tout, oui. Après c'est l'interprétation de chacun, hein,
un
voilà.
Peu clicheton,
ouais, très clicheton, et puis les cheveux longs c'est démodé, mais voilà.
Enfin bon, ça se parle à l'époque.
c'est un argument à la con.
Bah, depuis que tu t'es coupé les cheveux, c'est ta faute.
Oui, mais c'est ça.
C'est pour toi que tu dis ça.
Mais par contre, en fait, moi je trouve que Dragon's Dogma a pas de... Oui, vous pouvez garder vos cheveux.
Oui, faites ce que vous voulez.
N'importe quoi.
On va avoir l'air moche.
Dragon's Dogma est plus lisse En fait, et c'est ce qui fait qu'il arrive bien à faire Occidental, c'est que en fait c'est que du poncif et, ouais. au niveau design des personnages, etc. C'est vraiment du clicheton de base, quoi. Ce qui n'est pas le cas de The Witcher. Qui
et bah, c'est peut-être pour ça que je trouve que ça fait pas Occidental, parce que les Occidentaux maintenant sont de moins en moins dans le clicheton.
De ces clichés, ouais.
Et que là justement ça fait genre un peu les Japs qui veulent copier de l'Occidental, et du coup tu sens qu'il y a du japonais encore.
Mais je pense que c'est
un peu
exactement
naïf
comme
dans
quand
le design,
un Occidental essaye de faire un manga à la japonaise, tu sens que c'est pas un putain de Jap.
Exactement.
Même si c'est très bien et très joli et très propre et très bien fait.
Ça fait le Jap qui veut faire l'Occidental.
Ouais, mais ça peut amener à des résultats très
bien. Bien sûr.
J'ai aucun. Oui, voilà.
Évidemment.
Ça a l'air cool même.
Ça a l'air génial, Dragon's Dogma.
Allez, une dernière question polémique avant de passer aux questions Gameblog. Mais ça, c'est une question aussi Gameblog, quelque part, dans un sens. C'est la question de Seb le Caribou. Et vous avez été très nombreux à aussi poser ce genre de questions, et pas que dans le courrier des lecteurs. Donc on va y répondre en totale franchise. Avez-vous un jour vraiment cru au jeu Puncher's Impact, ou même à un changement de politique de Mindscape, quand l'émission dédiée au studio a démarré? Autant j'ai été fortement intéressé par le propos, comme beaucoup d'autres gamers, découvrir l'envers du décor était toujours intéressant, autant j'ai trouvé par avance les jeux idiots dans leur idée même. Faire un MMO chevalin, bah, je suis pas sûr qu'il y avait un public. N'avez-vous pas senti d'avance le mur venir quand vous rencontriez les développeurs?
Alors oui, il y a plein de questions en fait en une seule.
Et il y a une dernière question que j'ai pas notée là, mais qui a été énormément que c'est pourquoi n'avez-vous pas testé Crasher?
Et puis juste un truc, ce sera ma seule intervention là-dessus, je crois que tu sous-estimes la puissance du cheval sur les petites filles.
Oui, exactement. Ouais, donc ça, effectivement, on va expédier ça tout de suite.
C'est ça qu'on peut déjà balayer un petit peu. Évidemment, c'était pas des concepts ridicules. Le concept du MOBA adapté au jeu de bagnole, c'était intelligent. Et le MMO
de cheval
pour les jeunes filles.
Les Alexandra Lederman et compagnie cartonnent, mais grave. Donc on peut imaginer que
c'est au contraire une très bonne idée de D'ailleurs, ça avait déjà été fait, je crois. C'est pas les premiers à le faire. Il y avait déjà
D'autres trucs approchants en tous les cas qui traitent du cheval en ligne, donc effectivement, c'était pas. Alors évidemment,
ça nous intéresse pas.
Nous, on n'était pas particulièrement séduits par le concept par rapport à notre façon de jouer et ce qui nous intéresse. Alors, je parle du MMO chevalin, Crasher beaucoup plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'une part, on a commencé à prendre contact avec Punchers à une époque où le studio était en train de se fonder. Donc, il est encore une fois, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur les présentations à l'E3, etc., etc. Au début, tu n'as comme pour seul élément que le discours des gens, etc., et leur volonté de bien faire. Alors évidemment, Mindscape, on savait très bien ce que c'était aussi. Mais encore une fois, quand tu as un éditeur comme Mindscape qui met de l'argent sur la table pour faire un studio comme celui de Puncher avec les gens qui ont travaillé pour Puncher, t'as envie d'y croire, tu leur laisses le bénéfice
avec
du doute.
Des gens
pas
en plus
que...
qui viennent d'horizons divers et qui ont
bien
déjà fait des bons jeux, qui se sont déjà montrés plutôt compétents. Et puis il faut pas oublier une chose aussi, c'est quand même la première fois, puisqu'on en a discuté avec eux, qu'on avait l'autorisation en cours de développement de venir véritablement dans les studios, filmer, voir le processus de création comme très rarement.
Ce qui n'est jamais proposé.
Mais jamais.
Faut que vous le sachiez, c'est pas abordable ce genre de choses. C'est-à-dire que les projets, enfin surtout maintenant, peut-être à l'époque, ça aurait été possible, j'en sais rien. Mais c'est vrai que maintenant, tout est calibré. C'est extrêmement calibré. Et la communication autour d'un jeu, c'est hyper important. C'est probablement ce qui est le plus important dans la tronche de ceux qui les vendent. Et donc, il faut que ce soit maîtrisé et montrer un jeu. En cours de développement, d'ailleurs, vous l'avez vu sur les premiers épisodes de Puncher's Impact, ce que tu vois, on se dit attends, c'est moche, c'est pas possible.
Et les gens le disaient en plus. Les gens comprenaient pas. Ils disaient mais attends, c'est moche, ça va être de la merde, etc. Et tout.
Alors regardez le résultat final, c'est évidemment très très loin de ce qu'on produit au début. Et donc c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qu'on nous montre jamais. Donc impossible. Moi, je juge, en tout cas, impossible pour nous de refuser une telle opportunité. C'était évident. Génial de pouvoir filmer
un
projet
couillu,
en cours de développement.
C'est couillu de la part de Puncher's Impact, et c'est couillu de la part de Mindscape d'avoir ouvert leur studio aux caméras dès le départ, quoi. Ça, c'était une occasion en or qu'on ne pouvait de toute façon pas refuser, c'est certain. Donc, en tous les cas, en ce qui me concerne, n'avez-vous pas senti d'avance le mur venir quand vous rencontriez les développeurs? Non,
pas du tout.
Voilà. Moi, j'ai pas senti de mur particulier. Je savais que ce serait pas gagné, ça oui, mais j'ai jamais gagné.
Non, mais on savait que ça allait pas être un multi-million seller. Soyons clairs là-dessus. Pour autant, c'est vrai qu'on. Bon, sur le jeu de cheval, je sais pas pour vous, mais moi j'avais aucune.
Non, mais nous on s'en foutait du jeu de cheval.
Je savais pas trop.
Ouais,
voilà.
Enfin, si tu savais quand même
Crasher,
business, ça pouvait... c'était intéressant.
Je sais pas, le MOBA est pas un domaine que je connais très bien, mais enfin, il avait l'air plutôt correct, donc on pouvait s'attendre.
En tous les cas,
il prenait
une approche, encore une fois, qui était intéressante avec un des véhicules et deux, une approche plus grand public, entre guillemets, plus accessible, parce que le MOBA est quand même un. Si tu prends des jeux comme Heroes of New Earth ou LOL, enfin, c'est des.
LOL. Ouais. On est assis sur LOL d'ailleurs, pour information, ça. Une petite banquette LOL.
C'est quand même des jeux qui demandent beaucoup d'investissement, quoi. Voilà, c'est vraiment l'antithèse la plus totale qui est actuellement du jeu casual, quoi. Donc c'est très difficile d'accès.
Et puis le principe, c'est justement qu'on pouvait pas, s'il y avait un mur à voir, etc., évidemment, on pouvait pas le voir, parce que justement, on le répète, c'était de suivre un développement depuis le départ. Donc quelque part, avec vous, en même temps, on suivait le truc, l'évolution, etc. Et on savait pas à quoi ça allait ressembler, on savait pas, enfin si on avait vu des concepts et des choses comme ça, mais je veux dire, on savait pas si techniquement ça allait tenir la route. On avait juste le discours d'un chef de studio qui essayait d'embaucher des gens à droite à gauche de talent, etc. Tout ça c'était super intéressant. Et Crasher, je crois pas que ce soit un mauvais jeu, c'est simplement apparemment, on va en parler pour les raisons pour lesquelles on l'a pas testé, mais je crois surtout qu'il manque de joueurs.
Tu réponds à la question en fait, c'est que.
Alors pourquoi on n'a pas testé Crasher ?
Alors Crasher,
est-ce qu'il y a eu
une
entente avec l'éditeur,
absolument
pour jeter
pas.
Un voile pudique dessus, non.
Absolument pas. On a eu accès au jeu. Alors c'est assez compliqué comme histoire, mais à la base c'est donc un MOBA, je réexplique pour tous ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire un multiplayer online battle arena, c'est-à-dire un jeu de baston par équipe avec plusieurs joueurs en ligne qui ne se joue enfin dont tout l'intérêt c'est d'être joué en ligne, donc il faut des joueurs. Et le problème c'est que le jeu a été lancé prématurément, un peu en catastrophe,
et puis honnêtement
a été,
un peu cher
il y avait plein de problèmes, le lancement était raté, purement et simplement, pour tout un tas de raisons diverses et variées. Et donc quand on a commencé à jouer, Caféine devait faire le test en l'occurrence, moi j'ai essayé aussi puisqu'il y avait il y a eu très vite aussi une version Mac, j'ai essayé de jouer sur mon Mac, j'ai essayé de jouer que j'ai toujours avec moi. Il n'y a jamais de joueur. Donc le truc, ça a été une telle vôtre, ce lancement, qu'il n'y a pas de joueur. Donc s'il n'y a pas de joueur, ça veut dire qu'on ne peut pas tester. Tout simplement, sérieusement, en tous les cas, on ne peut pas éprouver les mécaniques de jeu vraiment. On ne peut pas juger de la communauté. On peut pas, ça ne sert à rien de faire un test d'un jeu à multijoueur où il n'y a pas de joueur. Quoi. Ça ne sert à rien. Après, il est fort possible.
On a décalé le test en se disant qu'il y a des joueurs qui vont arriver, puis les joueurs ne sont jamais arrivés. Voilà. Puis bon, on a vu que ça prenait pas, et effectivement, peut-être, et c'est là en termes de communication de notre part, parce que c'est effectivement, on était aussi un peu engagés, les gens, et peut-être un peu attendus sur le fait, alors, qu'est-ce qu'ils vont en faire vu qu'ils l'ont suivi ? On aurait peut-être pu le dire directement, on vous le dit aujourd'hui, mais c'est vrai que bon, vu l'échec du jeu, etc., vu le peu d'engouement, quelque part, on est passé un peu à autre chose.
Puis même, enfin, pour vous donner une idée, par exemple, ce que certains vont peut-être se poser la question, il y a quand même des jeux qui jouent en ligne aussi, qu'on arrive à tester avant, voire le jour de sortie. Souvent, en fait, les éditeurs organisent un certain nombre de LAN, enfin, ou des rencontres en multijoueur avec des journalistes, etc., sur plusieurs jours, qui permettent de se faire une bien meilleure idée du jeu dans des conditions de jeu réel. Et là, par exemple, on n'a pas eu accès à ça non plus. Alors, on aurait pu effectivement aller au studio et jouer avec les développeurs ou faire d'autres choses pour le tester, mais ça sert pas à grand chose puisque de toute façon si le jeu sort et qu'il y a personne pour y jouer, aussi bon ou aussi mauvais soit-il, ça ne change rien puisque personne n'y joue. Donc c'est aussi con que ça, quoi.
Donc voilà, une fois de plus, hein, vous savez toujours ce qu'on répète, hein, quand il y a des soupçons de je sais pas quoi, d'entente ou bidule, genre ah, vous avez eu un habillage, alors vous allez mettre une bonne note, regardez la preuve, vous avez un... Bon, vous avez vu que sur ces derniers temps, on a eu plein de jeux avec des habillages qui se sont pris des sacrées sales notes. On va pas justifier à chaque fois.
Il y a même. Personne n'a parlé de Islands of Wakfu par exemple, mais on a testé le jeu et c'est un jeu en Kama, donc qui sont nos associés sur Gameblog. On l'a déjà expliqué et voilà, ça nous a pas empêché de le prendre tel qu'il est, et c'est même pire que ça puisque c'est la personne qui l'a fait, en l'occurrence un ami proche. Donc. Il a eu
3
étoiles.
3 étoiles. Ce qui n'est pas une mauvaise note non plus. Hein,
non,
ce n'est pas
une
effectivement
note, enfin,
une
pas,
note. S'il y avait une entente, on va dire, on aurait pu mettre un petit peu plus. Mais il n'y en a pas. On est totalement indépendant sur notre jugement. Ce qui ne veut pas dire parfois qu'on ne fait pas des erreurs ou qu'on ne se trouve pas dans notre jugement. Mais c'est notre jugement à nous, en totale indépendance. Ça, sachez-le,
à chaque fois. Voilà, on va passer pour conclure ce podcast aux questions qui concernent directement la rédaction de Gameblog, la vie de Gameblog. Et on va commencer avec la question de Fijoff, qui nous demande comment se déroule l'organisation pour l'E3 à partir de la France et une fois arrivé là-bas. Invitation des journalistes, sélection des personnes de la rédaction qui auront la chance d'y aller. Une fois là-bas, comment organisez-vous les news avec le reste, merci, de la rédaction qui est restée, etc. En gros, comment ça se passe l'E3? Eh bien,
invitation des journalistes, bah on va inviter personne, hein, on y va tout seul et puis vous vous débrouillez. Si
non,
vous
non, mais je pense que c'est plutôt de la part des éditeurs, vas-tu?
Ouais, je sais bien.
D'accord.
Alors,
bah, la première étape, c'est Julo qui l'a fait, puisque Julo est gérant de Gameblog, donc il achète les billets d'avion et les billets, j'ai failli dire billets de train, et les réservations d'hôtels.
Voilà, dans les hôtels luxueux de, du centre de Los Angeles.
Bien évidemment.
Après ça, effectivement, ça c'est purement logistique, hein, c'est plutôt Raon qui va gérer, ça va être le... les prises de rendez-vous et les inscriptions des journalistes qui se rendent là-bas.
Non, Julien s'inscrit tout seul, il sait très faire, mais très bien faire. Mais effectivement, bon, on parle cette année effectivement aussi avec Cédric, notre cadreur
de l'extrême. Voilà. Stop filming cul.
Et là, en l'occurrence, effectivement, on s'occupe de son inscription sur les différents événements, que ce soit les conférences de presse, les avions, l'hôtel.
Donc, on peut d'ores et déjà dire qu'on est inscrit sur l'intégralité des conférences des éditeurs et des constructeurs.
Bien sûr.
Qu'il y a de très beaux rendez-vous qui sont d'ores et déjà pris. Et
avoir une
même
Xbox
avant le 3, oui. Et ça, c'est la petite nouveauté de cette année, vous aurez des beaux scoops sur Gameblog d'ici quelques jours.
Normalement, oui. C'est marrant d'ailleurs parce que tout le monde sent que ça va être un E3 très spécial, ouais. Il va y avoir beaucoup de choses, il y a une nouvelle machine ici, une nouvelle machine là, machin, donc il commence à faire
les
beaucoup de choses.
Les pré-E3 n'ont jamais été aussi importants.
Exactement, ouais. Voilà, donc bref, tant mieux pour nous.
Finalement, l'E3 c'est le reste de l'année.
Et pour vous aussi, parce que du coup aussi, ils vont voir des choses, des gros temps forts de l'E3 avant l'E3.
Avant l'E3, et puis pendant l'E3, du coup, ça permettra peut-être aussi pour nous qui serons sur place de placer un peu le projecteur sur d'autres choses. De placer les projecteurs sur autre chose parce que y a toujours beaucoup trop de jeux à voir, beaucoup trop de jeux à jouer et à découvrir, donc c'est toujours assez délicat, surtout qu'on n'est pas une armée de wet mill sur place. Mais bon, voilà, donc effectivement, oui, il y a des rendez-vous qui sont pris par les éditeurs pour leurs événements sur place quand ils en ont, par exemple la conférence de presse Electronic Arts ou celle d'Ubisoft, et puis sur les stands après. Il y a deux sortes de rendez-vous, en grosso modo. Il y a les rendez-vous secrets, ce qu'on appelle les behind closed doors, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas visibles par le sans rendez-vous parce qu'elles ne sont pas exposées sur les stands de ces éditeurs et de ces développeurs. Et puis les rendez-vous plus classiques où effectivement on fait le tour d'un stand, on parle de ce qu'il y a, des plannings de sortie, etc. Alors nous, on a fait le choix de ne se focaliser que sur les choses behind closed doors. Voilà. Et les interviews, et puis le reste on le découvrira par nous-mêmes sans qu'on nous prenne par la main, de stand en stand, un peu partout. Donc c'est comme ça qu'on va fonctionner en tout cas.
Ça c'est pour la partie de Los Angeles, avec bien sûr un suivi, voilà, avec un suivi des conférences aussi en live. On balancera vraiment toutes les informations en temps réel, donc soyez connectés. Il y a déjà des news qui vous donnent les horaires, on les reprécisera bien sûr avant l'arrivée du salon, à quel horaire ça se passera, horaire française, pour que vous puissiez ne rien manquer des conférences Nintendo, Sony, Microsoft, mais aussi Electronic Ubisoft. Arts, Ubisoft et compagnie, avec des comptes rendus bien sûr en vidéo aussi à chaque fois. Et de l'autre côté, à Paris, bah, y a toute l'équipe qui est motivée,
super bien organisée,
voilà, sur le pont.
Super
extrêmement
efficace.
Bien organisée et qui travaille du matin au soir, ou plutôt du matin tard dans la nuit.
Du matin au matin.
Qui relaie toutes vos magnifiques interviews.
Voilà, donc
vos plateaux,
on s'envoie, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on s'envoie évidemment beaucoup de SMS. Hein, à Los Angeles, on nous dit ah putain, le prix de la 3DS, c'est tant, j'ai vu le truc sur machin, tac. Alors on fait, comme ça, on peut balancer des news tout de suite. On se téléphone si besoin quand il y a des informations un peu plus complexes. Il y a toutes les infos, bah, tous les trailers qui tombent, donc on est connecté aussi à tous les sites presse pour que quand ils dévoilent les jeux sur le salon, bah, en même temps il y a les vidéos qui arrivent sur des FTP. Exactement. Qu'on récupère, on écrit des news et etc. Je pense que le
sortir
nombre de news à la journée
aussi,
doit tripler, voire quadrupler pendant les 3,
comme la folie de Traz d'ailleurs,
et la folie
là
de Traz également,
super saiyan.
Il faut absolument qu'ils prennent des vacances avant qu'on commence.
Tout à fait.
Voilà, on devrait avoir Mimic en soutien d'ailleurs à Paris, parce qu'il faut pas croire, c'est aussi
c'est très
boulot,
important,
très 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 important.
Ben, l'essentiel d'ailleurs du contenu qui est posté pendant le salon même vient de
ouais,
Paris,
voilà.
qui redigère ce qu'on envoie, qui récupère les press kits, etc.
Pendant que vous courez partout.
Il y a Poufy aussi, Poufy qui est très actif pendant l'E3, hein, parce qu'il monte vidéo sur vidéo. Parce qu'évidemment on va le traiter cette année comme les deux années précédentes, avec des plateaux sur place,
encore mieux, même
des tours de stand,
les coulisses du salon,
voilà,
enfin, chose, quoi.
On va un peu mieux s'organiser, peut-être garder les interviews pour continuer à faire vivre le salon ensuite, etc., parce que c'est vrai que logistiquement c'est un peu compliqué,
à part peut-être les interviews en français qui sont faciles à faire.
Si vous croisez David Cage pour vous parler de son jeu qui se passe pendant la guerre, voilà.
Genre ouais, la roquette, tu sais, c'est quoi ça et tout.
Et s'il y a un F-Zero, les gars, je veux des impressions complètes.
Ça marche.
Et Alan Wake 2, pareil, hein, j'en peux plus.
Il va y avoir de l'interview aussi chez Ubi, il y a beaucoup de Canadiens qui peuvent parler en presque français.
Voilà, vous savez un petit peu plus sur l'organisation de Gameblog pendant l'E3, et c'est à peu près la même chose au TGS, la Gamescom et compagnie. Allez, nouvelle question, celle de Nova. Pourquoi ne pas créer les dispensables Gameblog ? Il y en a toujours que pour les meilleurs.
c'est pas con.
J'aime bien l'idée.
J'adore.
Le super dispensable, machin.
Eh ben, on va y penser.
Oui.
Voilà. question de Griboule, ou Gribule. Il me semble qu'il y a de très nombreux podcasts où...
On nous avait promis
une nouvelle musique pour le générique. Je crois toujours que Karate Boy va débarquer. Est-ce toujours d'actualité ? Bon, alors déjà, on l'avait quand même un petit peu avant Karate Boy.
Oui.
C'est Karate Boy qui nous a dit.
Et si t'es pas content, Karate Boy, t'as qu'à venir et on te la pètera ta gueule.
Voilà. Effectivement, on avait dit une nouvelle musique. Pas d'ici la fin de la saison. Hein, donc,
qui approche à grands pas.
Voilà, mais peut-être pour la rentrée. Ce sera une surprise.
Oui, peut-être.
Peut-être pour la rentrée.
Eh ben, je propose qu'on finisse tous les podcasts en parlant comme ça.
En sachant bien évidemment que nous arrivons bientôt au podcast 200, dans lequel il se passera des choses absolument incroyables. Ce sera peut-être l'occasion de faire une nouvelle musique que vous découvrirez bien sûr sur TF1 et à la Star Academy. Nouvelle question. Ah bah c'est encore Nova.
Il t'a bien eu lui, hein.
Oui, c'est ça. Mais alors peut-être je me suis trompé en fait du pseudo.
Ah, peut-être.
Je sais pas. Bon. À quand un versus avec d'autres personnalités KHL et Cyril Drevet ? On les connaît tellement qu'ils peinent à nous surprendre. Pourquoi ne pas confronter un Julien C à un Raon, un Julo contre un Poufy, un Blizinski contre un Genovacen, une grand-mère contre un sale jeune, une blonde contre un clochard ? La dernière comparaison est super violente. Quand tu es blonde, tu peux pas être une clocharde, et puis réciproquement. C'est une bonne idée, on y a d'ailleurs pensé.
Maintenant, qui sait ce que l'avenir nous réserve.
Exactement, vous avez remarqué qu'il n'y a plus de versus depuis quelques temps. Alors il va en avoir un dernier. Un tout dernier.
Pour dire au revoir.
Exactement. Ça va, oui, c'est les versus.
Attends, refais.
Au revoir. Un tout dernier. Pour dire au revoir. Voilà.
Une fin de podcast sous le signe de l'imitation. Donc.
C'est ça.
C'est parti.
Écoutez.
Écoutez, Alain et Cyril ont décidé.
Non.
Et donc, on va arrêter Versus, en tout cas sous cette forme-là. La suite, peut-être, comment ? Ah, il y a un suspense, mais il y aura en tout cas clairement des nouvelles choses, j'ai bien dit des nouvelles choses à la rentrée, mais bien évidemment on ne peut vous le dire maintenant, sinon ce serait pas drôle, un peu de suspense. Donc voilà, donc on reste flou volontairement. Autre question de Bandini, de retour, ouais, et, qui nous pose la question. Et au fait, ce concours de t-shirt, eh bien oui, on n'a pas annoncé encore officiellement les résultats puisque nous n'avons pas encore fait ces fameux t-shirts qui sont malheureusement liés encore à une décision dont nous n'avons pas totalement la main dessus. Néanmoins, nous pouvons vous annoncer que les trois vainqueurs, et nous n'avons malheureusement pu en choisir que trois, il s'agira de Master X, de Oncle Sam
et
de Narco. Voilà, donc trois, alors je sais plus exactement lesquels sont qui,
clap.
Mais il y en a un, c'est un gros t-shirt avec le logo Gameblog en version Bioshock, qui est super classe. Il y en a un avec la grande croix de Gameblog fait en Mario Galaxy, qui est super classe.
Aussi.
Et il y a le dernier avec le Yes We Can, mais avec une canette en forme de Wiimote, etc. En format un peu, vous l'avez compris, Obama, qui est très classe elle aussi. Donc voici les trois t-shirts collector qui devrait débarquer bientôt dans les boutiques de Gameblog. On vous en reparlera, bien évidemment. Et encore un grand merci à tous. Bon, même si beaucoup d'entre vous n'ont pas compris qu'on n'avait pas le droit d'utiliser les visuels des éditeurs et machin, alors qu'on l'avait bien spécifié, bon, bah, c'est pas très grave. Mais il y en a d'autres qui ont fait de très très belles réalisations. Et malheureusement, on a dû en choisir que trois. Et ça a été un crève-cœur. Il y a même eu des décisions dures au sein de la rédac parce que vous avez été nombreux à nous faire des très très belles choses. On le refera à l'avenir. Et donc, pour conclure ce podcast, dernière question, celle de Juju Dadidou. A-t-on le droit de parler religion, politique et autres sujets sensibles sur les blogs?
Oui.
Eh bien, oui, vous avez totalement le droit d'exprimer toutes vos opinions, à partir bien évidemment du moment où elles respectent
la loi.
La loi, voilà. Donc,
les droits de l'homme.
Donc, normalement, par exemple, vous n'avez pas le droit de diffamer.
Voilà. Voilà. Donc,
Incitation à la haine raciale, ce genre de truc-là, c'est hors de question aussi, etc. Mais vous avez tout à fait le droit d'avoir des débats sur la religion et la politique dans vos blogs, je précise, effectivement.
Exactement. Dans la zone communauté et blog, sur votre blog, qui est votre zone à vous, sur laquelle vous devez faire la police. C'est vous qui êtes responsable de votre zone forum de vos blogs, bien évidemment.
Et de leurs commentaires.
La modération peut intervenir s'il y a vraiment des, comme on l'a dit, des trucs hors cadre, hors loi, machin, etc. Mais sinon, c'est vous. À vous, si vous avez des trolls qui vous font chier, bah, vous les supprimez. Vous avez la main là-dessus. Si vous voulez parler de politique, vous avez le droit. Par contre, bien évidemment, comme le disait Raon, pas dans les forums de news, pas dans les forums du fil d'actualité du site. Ça, c'est l'actualité. Et ça, on est très clair là-dessus. Pas de politique, pas de tout ça, machin. Sur vos blogs, vous avez même le droit de faire des blogs élection 2011, si vous avez envie. C'est votre zone à vous. Hein.
Élection 2011.
2012.
Voilà.
Voilà. Non, non mais c'était pour les CE. Hein. Ben voilà, comité d'entreprise 2011. Hein,
Oui, un blog que j'ai envie de lire.
Bien sûr, vivement que vous avec Jean-Oui, hein, c'est Jean-Oui qui se présente, je crois, cette année. Hein,
pour les problèmes.
Ah, il est très très bien, Jean-Oui.
Je sais pas. Donc voilà, vous avez un espace de liberté qui vous appartient dans vos blogs. Voilà. Ainsi s'achève.
Pas de haine.
Ah non, bien
de
sûr.
De l'amour.
Ah, et au fait, voilà. Vu que c'est une question, je juge Dadidou.
Dadidou, Dadidou.
Ah oui, mais on fait plus de photos de fin de Gamecam. J'étais en train de me dire ça. Parce que c'est ce magnifique lecteur qui nous a tous affublé d'une magnifique moustache.
Merci pour les moustaches.
Nous a fait rigoler, Juju Dadidou.
Très bien. Et voilà. Ah, effectivement,
tu sais que Julo, il a fait ça en vrai, hein, quand même.
Oui.
Oui.
Il le sait, et à chaque fois qu'on en parle, il dit arrête de radoter, Julo, t'es vieux, tu radotes.
Oui, non, mais je l'ai entendu souvent cette histoire. Voilà. Mais c'est parce que c'est une belle histoire.
Attends, on explique quand même. À mon mariage, j'ai demandé à tous les hommes invités de venir avec une moustache.
Ce
qu'ils ont tous fait, ils l'ont laissé pousser pendant les 2-3 semaines avant, selon la pilosité de chacun.
Vous avez fait les rugbymen pour la Coupe du Monde de rugby.
C'est vrai?
Vous avez fait le jeu de la biscotte à ton mariage ou...
Bon, bah, je peux pas te dire. Et ce que je peux te dire, c'est qu'il y avait des appareils photos sur toutes les tables.
Ah mais ça ouais, c'est bien, ça marche dans les mariages, oui. C'est une bonne idée ça.
C'est génial, ouais. Je vous conseille à tous de faire ça pour votre mariage.
Ouais c'est vrai.
Vous aussi, voilà. Organisez votre mariage avec la SPAT. Organiser, c'est un métier. Voilà.
C'est une spéciale dédicace.
Exactement. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour des questions de ce courrier des lecteurs numéro 6. On vous le rappelle, ce soir rendez-vous aux membres premium à 18h30 précise pour un chat en direct où on répondra à toutes vos questions. On prolongera le débat de ce podcast si vous le souhaitez ou d'autres questions. Et puis rendez-vous samedi 21, ce samedi à 16h à la FNAC des Halles pour un podcast enregistré en live avec vous. Donc n'hésitez pas à rendre. C'est gratuit, hein, c'est porte ouverte. Voilà. Mais ça commence à 16h, donc venez un petit peu avant. Et en plus, on sera bien sûr un petit peu plus disponible après pour papoter avec vous. On vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour plein de nouvelles choses sur Gameblog, dont un nouveau podcast complètement dingue et fou. D'ici là, portez-vous bien et surtout, jouez bien. Et à samedi. Ciao!
Salut!